Donc, Bezrat Hashem, nous sommes toujours dans la Hagdama, on est au Hamoud Gimel, la haute bête. Donc, après que le Rav a commencé à expliquer l'importance du Limoud à Kabbalah, il continue dans la haute bête et voyons ce qu'il va dire. Vetzarich leda, shema shezacha am Israël la Torah velo agoyim, ok moshe katouv magid devarav le Yaakov, chukav ou mishpatav le Israël, wa neemar beikar al Torah tasod. Ce qui est marqué, que particulièrement le Ram Israël a été zoché de recevoir la Torah plus que n'importe quel peuple au monde. Comme le pasuk nous dit, Magid Devarav le Yaakov, Akadosh Baruch Hu a dit sa parole à qui? À Yaakov, c'est-à-dire au peuple juif. Chokav ou Mishpatav l'Israël, il a enseigné ses lois et ses préceptes également au Bnei Israël. L'essentiel de ce propos, que la Torah a été donnée au Bnei Israël, c'est dit à propos de quelle Torah? C'est dit à propos de la Torah de la Kabbalah. Qui est à Torah chez Birtav, Yesh Gam Legoyim? L'accès à la Torah écrite, au Pentateuque, ouais, aux cinq livres de la Torah, ça n'importe quel goy peut avoir accès. Il peut aller à la librairie, s'acheter un livre, lire et comprendre. Ouais, il sait pas qu'il a ça en règle générale dans sa bibliothèque, mais il peut y avoir accès. Il tape là où il faut taper, il commence à lire et il comprend. Ça veut dire que c'est accessible pour lui. Vafelou à Pirou chez la Torah Biktav, chez Zetora, chez Berlpe, Masrou la Goyim, et on voit que même l'explication de la Torah écrite, qui est la Torah orale, la Gemara et la Mishnah, on voit que même ça, les Goyim y ont eu accès.
Mais ils n'ont pas accepté.
Ils n'ont pas accepté. Mais ils ont accès, ça veut dire que s'ils veulent, ils peuvent étudier. Il paraît que le Rav Zamir Cohen y raconte que ça a été découvert il n'y a pas longtemps qu'il y a des peuplades en Chine, ouais, qui étudient la Gemara. Ils ont trouvé la Gemara, je ne sais pas de quelle manière. Ils ont étudié, ils ont trouvé ça très sympa. Ils ont vu que c'était ça leur parlait, quoi, ça veut dire. C'était bien écrit, bien rédigé, il y avait beaucoup de morale. Donc tu vois, même des goyim, imagine-toi, en Corée.
Ils sont arrivés à Nebrak.
Je crois que j'ai entendu, on avait parlé sur un
chiot. Ils étudient la Gemara.
Il y a un petit moment, c'est pas dit.
Ouais, c'est pas dit. Ouais. Donc tu vois, ils peuvent y avoir accès, ils peuvent trouver la chose, ils peuvent l'étudier, même le comprendre. Et même être mitraber, même trouver des atomes crochus entre eux et cette étude-là. Verra que Torah Tassod en la goyim. Par contre, la Torah de la Kabbalah, la Torah du Sod, jamais aucun goy au monde ne pourra y avoir accès. Qui en l'aime shuma sagabazé. Ils pourront jamais avoir aucune compréhension dans la Torah de la Kabbalah. Vem shualim al ze kolazman. D'ailleurs, tu vois que sans arrêt, les goyim, ils demandent sur la Kabbalah. Ah, chez vous les juifs, il y a la Kabbalah. Chez vous les juifs, il y a la Torah du Sod. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est une partie qui est exclusive à nous. Veze meyuchad rak l'Israël. Ça, il n'y a que les Bnei Israël qui ont l'exclusivité totale sur cette partie-là du Limoud à Torah qui est la Chochmat à Kabbalah. Valze Nehemar, et à propos du Limoud de la Kabbalah, il est dit Lo Asachen le Cholgoy, Akadosh Baruch Hu ne l'a donné à aucune autre peuplade. Ou Mishpatim, Bal Yedaroum. Et tous les préceptes énoncés dans la Kabbalah, Bal Yedaroum, les Goyim, ils ne les connaîtront jamais. Valachen, et Echlanou Limoud et Tze, Velismoar Betorazou. Il nous faut donc, nous, le peuple juif, particulièrement étudier cette chorma de la chorma de la Kabbalah et se réjouir quand on l'étudie. Parce qu'il faut bien être au courant et comprendre que quand on étudie la chorma de la Kabbalah, on a accès à une phase de l'étude que personne au monde ne peut avoir accès hormis le Ram Israël.
Et quand il y aura Yemot HaMashiach,
même les Chahorah, quand il y aura Yemot HaMashiach,
il y aura Dat Hashem, donc ils auront accès maintenant, tous, non?
Ils n'auront pas ce chélek de la Meneshama qui leur permettront d'avoir accès, mais je vais te dire un chidouche qui est marqué dans le Lechem et dans d'autres endroits, le Lechem Shebo Vachlama, le grand-père de Rav Eliashiv. Il dit quelque chose de formidable. Il dit que quand Melech HaMashiach va venir, alors tout le da'at des Bnei Israël va augmenter. Et quand on va vouloir parler avec Mashiach, Tzidkenu, il ne parlera pas le langage de la Gemara de Shor Shenagar et Tapara. Il parlera que le langage du Zohar et de la Kabbalah du Harizal. Ça veut dire que tu viendras devant Melech HaMashiach, tu lui diras est-ce que le Rav peut nous expliquer un passage de la Gemara? Ce ne sera pas de quoi tu parles, Kilou. Ce ne sera pas la Torah qu'on étudiera, la Hatid Lavo quand viendra Melech HaMashiach. Donc celui qui n'a pas l'agdamot, qui n'a pas au moins les premiers propos... Toujours avec le bon sens. Parce qu'il faut bien savoir, il faut bien être au courant que, comment dire, que c'est vrai que l'Arati de Lavo, ça va être ça, la Torah, qui va être pratiquée par Mashiach et qui va enseigner et dévoiler encore avec plus de Yeter Seed et Yeter Oz ou Am Israël. Mais entre-temps, dans la vie dans laquelle nous, on se trouve, on est obligé de connaître et de bien connaître la Gemara et la Halakha. Parce que tu ne peux pas te débrouiller dans ta vie de tous les jours aujourd'hui, dans ta vie de juif pratiquant, si tu n'as pas des connaissances fortes en Gemara et en, comment dire, et en Halakha. Donc ça, c'est toujours sine qua non. Le limoud de la Gemara et de la Halakha, c'est sine qua non. Quand la Tidlavo Mashiach viendra, alors on développera encore plus notre connaissance dans le domaine de la Kabbalah. Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, Alors, par rapport au limoud de Léatil Lavo, donc on verra que c'est un limoud qui va être exclusivement un limoud de Kabbalah. C'est pour ça que c'est très important, pour pouvoir avoir un minimum de conversation avec Melech HaMashiach, on doit au moins avoir les Hagdamot, ça veut dire les introductions les plus basiques de la Chokhmat HaKabbalah. Si on ne les a pas, quand Melech HaMashiach viendra, on ne saura même pas comment s'adresser à lui. On ne saura même pas de quelle manière lui parler. Donc c'est aussi une raison pour laquelle c'est très important de pouvoir avoir accès au moins aux premières introductions de la Chokhmat HaKabbalah. Donc, Ubifrat, ki i meyuchedet rak lanu, donc ce chelek là du limud Torah qui est la Chokhmat HaKabbalah, elle est meyuchedet, elle est particulière juste à nous, le Ham Israël. Ubifrat, shal yedei Torah tasot, anu yodaim umakirim et Hashem. Par l'intermédiaire de notre étude de la Chokhmat HaKabbalah, on découvre encore plus Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir que notre Emouna, même quand on est un avraire, ça veut dire, et même quand on a passé plusieurs années d'études, c'est une émouna qui est un petit peu, on va dire, une émouna de Kita Aleph. Ça veut dire que on n'a pas beaucoup évolué entre ce que la Galénette nous a raconté au Gan sur l'omniprésence d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, la émouna que nous, on doit avoir envers lui, etc., etc., et notre connaissance d'Akadosh Baruch Hu aujourd'hui en tant que père de famille. C'est resté environ le même niveau. De la même manière que la Ganénette, il y a 30, 40 ans, nous a dit croyant à Kadosh Baruch Hu, et qu'il est partout, et que vous devez le servir quoi qu'il arrive, on en est exactement au même niveau aujourd'hui. On n'a pas beaucoup évolué par rapport à ça. L'imout de la Chokhmat HaKabbalah va nous montrer comment Kadosh Baruch Hu a créé une multitude de mondes, et comment toute cette multitude de mondes avait pour seul et unique but d'atteindre notre monde à nous, et dans notre monde à nous, de nous atteindre à nous les Bnei Israël pour qu'on puisse servir Akadosh Baruch Hu. Donc plus on va voir la diversité des mondes qu'Akadosh Baruch Hu a créé, leur ampleur, leur magnificence, etc., etc., plus on va avoir une connaissance forte d'Akadosh Baruch Hu. Donc de ce fait, notre niveau de Emouna va augmenter. D'accord ? Ce ne sera pas la même chose quand on sait que voilà, Akadosh Baruch Hu a créé notre petit monde et il le gère, tu comprends ? C'est pas la même chose si je te dis entre guillemets, hein, entre guillemets, je te dis voilà, tu as besoin d'argent pour telle œuvre que tu veux parrainer. Écoute, va voir un tel homme, il dirige un petit bistrot. Ouais, il dirige un petit bistrot, mais ça a l'air qu'il s'en sort, tu comprends. Il a un petit PMU comme ça, et bon, les gens viennent dans son petit PMU, ça a l'air de marcher. Bon, je te dis, tu pourras peut-être faire quelque chose, mais combien d'années pour m'aider le gars? Quand tu dis à quelqu'un, écoute, je vais t'adresser à une personne qui a une chaîne de restaurants dans tout Paris. Bon, il y a quelque chose d'autre, tu comprends, une chaîne de restaurants dans tout Paris. Si je te dis, le gars, il a une chaîne de prêt-à-porter dans toute la France, dans toute l'Europe, dans le monde entier. C'est Bill Gates, c'est Windows. Ouais, tu comprends que c'est pas la même chose. Ouais, tu comprends que c'est deux choses complètement différentes. Donc, c'est ce que j'ai raconté la dernière fois à Eddie, le Kafar Chaim. Il raconte, il écrit dans sa Lachot toutes les kavanot al pi asod de tkiat shofar. Alors, c'est magnifique, ouais. Les kavanot de tkiat shofar, c'est que quand tu tiens le shofar, il y a une kavana. Quand le souffle rentre à l'intérieur de la corne, quand la joue devient rouge, etc., ouais. etc. Alors, il dit, je sais bien que tout le monde n'a pas la force et n'a pas les connaissances pour pouvoir pratiquer ces kavanot au moment de tkiat shofar. Il dit, mais je les écris pour renforcer notre émouna au Hakadosh Baruch Hu. Et comment? Pour nous montrer que dans notre Torah, rien n'est laissé au hasard. Et ça aussi, c'est une manière de se renforcer dans notre émouna envers Hakadosh Baruch Hu, de voir comment chaque chose dans la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot, est medouyeket. Il n'y a rien qui soit laissé au hasard. Comme on a dit la dernière fois avec Eddie, quand tu ne connais pas le Sot, quand tu ne connais pas la Kabbalah, il y a plein de choses que tu n'arrives pas très bien à comprendre. Ouais, il y a plein de choses que tu pratiques. C'était devenu comme ça d'une manière très, très rhétorique, très récurrente. Comment tu fais, mais sans vraiment comprendre. On a ramené la dernière fois l'exemple de tenir les deux tzitziot au moment où on dit Baruch Shema. Tout le monde fait ça. Tout le Ham Israël, c'est les deux tzitziot au moment de Baruch Shema. Maintenant, je te dis, je mets au défi quiconque de trouver une raison dans les Sfarim de Halakha des Pashtanim. Pourquoi on fait ça? Mais d'un autre côté, demande aux gens pourquoi ils font. Ils ne sauront pas l'expliquer. Nous, Alpi Akabbalah, on sait très bien pourquoi on le fait. Tu comprends? Et de la même manière, plein de choses comme ça. Là. Par exemple, tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que la veille de la Brit Mila, on veille l'enfant et on lit les Zohar à côté de lui? Pourquoi on ne fait pas la même chose la veille de sa bar mitzvah?
Son mariage.
Et voilà, pourquoi on ne fait pas la même chose la veille de son mariage? Pourquoi est-ce que les Hadassim, ils doivent être à gauche et les Aravot à droite et le Loulav au milieu? Ça embêtera que de beaucoup si on faisait les choses autrement.
Je me fais un truc aussi, c'est par rapport au Aravot. C'est quand, dans le Seder des choses, normalement, Abraham, Israël, Jacob. Après, c'est qui? C'est Yosef, normalement.
Ouais.
Donc, David, Aaron, Yosef.
Ouais.
Tu vois que dans les Sédères, là-bas, tu vois que c'est le Kabbalah.
Nahon, tu vois que les Ashkenazis, d'ailleurs, dans les Ushpizim, ils font pas comme ça. Mais nous, on fait le pied à Kabbalah. Voilà. On fait d'après les Sédères. Qu'est-ce que tu as dit? Nahon.
C'est dans les Sédères pour Aravot et Hadassim.
Ouais.
C'est pas le Sédère de Harizal.
Ouais, t'as raison. Tu devais faire 1, 2, 3 et 1. T'as raison. Mais même ça, ça veut dire, même toutes ces choses-là, on les comprend, le PSOT, pourquoi ? Et comme ça, une multitude de choses. Maintenant, si on n'a pas, on n'est pas un peu versé dans le sod, même le sens simple de l'accomplissement des mitzvot, on n'arrive pas très bien à le pénétrer, on n'arrive pas très bien à le comprendre. Le Gaon de Vilna disait que Pered en Avin. Pered, il disait, c'est les rachetés votes de Pshat, Remesh, Remes, Drush, sans le sod. Celui qui pratique juste Pshat, Remes et Drush, sans le sod, en Avin. Même les trois premiers halakim qu'il pense pratiquer, Pshat, Remes et Drush, même ça, il ne les comprend pas. Il disait, le Gaon de Vilna, quelque chose de surprenant, il disait, la lecture la plus simple du Pshat, c'est seulement quand on la lit, quand on lit le Pshat avec le sod. Ça veut dire que même la lecture simple des choses, tant que tu n'as pas le sod avec toi, tu ne comprends pas vraiment pourquoi. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi est-ce qu'il vous met le talit avant les tefilines ? Ça dérangerait tellement à Kadosh Baruch Hu de combattre le talit, les tefilines après le talit. Regardez d'après les Mekoubalim jusqu'à où ça va.
Le talit après les tefilines.
Voilà. Ouais. Regardez d'après les Mekoubalim jusqu'à où ça va. On a une halakha qui nous dit En maravirin ala mitzvot. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu tiens une mitzvah dans tes mains, tu n'as pas le droit de la lâcher pour aller en faire une autre. D'accord ? Maintenant, quand on dit que quelqu'un par inadvertance le matin s'est trompé, il a pris cette tefilines avant son talit. Alors le Kafar Chaim et le Ben Ishraï disent tous les deux, bien qu'on a la halakha de En Mavirin à la mitzvot, et que théoriquement il ne devrait pas lâcher cette tefilines. Il devrait mettre cette tefilines, et tant pis, il mettra ultérieurement, après, son talit. Ils disent non. Là, c'est tellement important de faire précéder le talit aux tefilines qu'il lâche les tefilines et il met d'abord le talit. Alors, tu comprends pas pourquoi ? Qu'est-ce qui est tellement important ? Et puis là, tu effaces une halakha de En Mavirin à la mitzvot. Donc, dès qu'on comprend un petit peu plus les choses de Sod, alors les mitzvot s'interprètent d'une autre manière et on voit comment chaque chose est très très médouillée.
Alors, juste pour pas graisser comme ça sur.
Sur notre fin. Il veut savoir. Ah, pour Baruch Hashem. Alors, c'est un peu compliqué, mais tu as raison, on va essayer de dire quelque chose. On va essayer de dire quelque chose. Regarde. Ça concerne justement notre étude, donc ça tombe bien, ça, c'est un sujet de Kabbalah. Le Zohar HaKadosh nous dit la chose suivante. Le Zohar dit qu'il y a, entre guillemets, deux chantiers. C'est-à-dire, je m'explique, vous savez que tout ce qu'on fait par l'étude de la Torah, par l'accomplissement des mitzvot, c'est ce qu'on appelle des tikkunim. On alimente des olamot, des mondes célestes, et on fait passer en eux, par l'intermédiaire de notre Torah et de nos mitzvot, des flux. Ces flux vont aller d'un monde à l'autre, d'un monde à l'autre, jusqu'à arriver chez nous dans notre monde. Et nous donner de la bracha, de la hatzlacha, dans la parnassa, dans les enfants, dans le mariage, etc., etc., dans le limoud, etc. Donc, pour ça, il faut être mosher ce qu'on appelle ces flux, ces shfaïm. Il faut, par l'intermédiaire de la Torah et des mitzvot, tirer ces flux-là. D'accord. Maintenant, les mondes ont deux aspects. Il y a ce qu'on appelle la chitsoniyut des mondes et la pnimiyut de ces mondes-là. Même les olamot ruchanim, même les mondes célestes, divins, supérieurs, ils sont divisés en deux. Il y a l'extérieur de ces mondes et l'intérieur de ces mondes. Comme tu verrais le corps d'un homme, il y a notre corps de manière extérieure, or, bassar, guidim, atzamot, moar, sheba, atzamot, la peau, la chair, les os, la moelle épinière qui est à l'intérieur des os. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la chitsuniyut. Maintenant, la neshama, l'âme, c'est l'intérieur de notre corps. Donc même nous, on est en réalité divisé de ces deux aspects-là. Il y a l'extérieur et l'intérieur. La même chose par rapport au monde céleste. Il y a l'extérieur de ces mondes et l'intérieur de ces mondes. Maintenant, le Zohar nous dit, comment faire venir les flux dans ces deux pans de ces mondes célestes ? Il faut faire venir les flux dans les pans extérieurs des mondes et dans les pans intérieurs des mondes. Nous dit le Zohar, le flux viendra dans le pan extérieur des mondes par l'intermédiaire des mitzvot qui sont en action. Tfilin, talit, tout ça ce sont des actions. Donc les mitzvot qui sont des actions, les actions montrent que tu les opères avec l'extériorité de ton être. Tu prends avec tes mains ton talit et tu mets ton talit. Tu prends avec tes mains tes tfilin et tu mets sur ton bras tes tfilin, etc., etc. C'est ce qu'on appelle des mitzvot marasiyot, qui se font par l'intermédiaire d'une action, d'un acte. Puisqu'ils se font par l'intermédiaire d'une action, d'un acte, ils sont extérieurs. D'accord ? Ils se font avec l'extérieur, l'extériorité de la personne. Donc, de la même manière qu'ils se font avec l'extériorité de la personne, ils tirent les flux dans l'extériorité des mondes. D'accord ? Maintenant, nous dit le Zohar, toutes les mitzvot qui se font par l'intermédiaire de la parole vient de l'intérieur. Et la parole est l'expression de la neshama. Comme le traduit Ankelos, que quand l'homme a eu en lui son âme, il a été les ruach memalela. il a réussi à parler à partir du moment où Akadosh Baruch Hu lui a mis l'âme à l'intérieur de lui. Donc toutes les mitzvot qui se font par l'intermédiaire de la parole, tfila, limud Torah, eux tirent les flux dans la face interne des mondes. Jusque-là, c'est bon ? Oh. Maintenant, le Harizal nous enseigne quelque chose d'intéressant. C'est que les flux qui ont été tirés dans l'extériorité des mondes ne peuvent pas monter de niveau de eux-mêmes. Comme ils sont extérieurs, ils ont un petit chissaron, c'est qu'ils ne peuvent pas augmenter de eux-mêmes, ils ne peuvent pas aller de monde en monde de eux-mêmes. Par contre, les flux qui ont été tirés dans la pnimiyut haolamot, dans l'aspect interne des mondes, eux peuvent monter de eux-mêmes. Maintenant, on est entre guillemets bloqué. L'intériorité peut monter, mais pas l'extériorité. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'extériorité ? Au moment où le même niveau d'intériorité a été alimenté, alors l'intériorité prend avec elle l'extériorité et la tire vers le haut. Jusque-là, ça va ?
Ouais.
L'extériorité de elle-même ne peut pas monter. L'intériorité le peut. Donc, l'intériorité prend la même bechina qui est relative à elle, parce qu'on est bien d'accord, l'extériorité et l'intériorité, ils sont parallèles. Disons qu'on a une graduation de 1 à 10 dans l'intériorité, on a la même graduation parallèle de 1 à 10 dans l'extériorité. Donc quand le niveau 3 d'extériorité a reçu son flux, il est embêté, il ne peut pas monter plus haut.
Et pourquoi mais, il peut monter ?
Parce qu'on va dire que comme il est vers l'extérieur, il est moins, un peu moins céleste.
Pourquoi il ne peut pas monter ? Pourquoi il doit monter ?
Parce que plus il va monter, plus il va encore recevoir des flux. Plus il va se rapprocher du summum, si tu veux. Donc nous,
ces flux
ils viennent de très très haut.
Oui, mais ils descendent vers le bas ou
après, une fois, d'abord on les alimente là où ils sont. Une fois qu'on les a alimentés là où ils sont, on leur donne la force de monter.
Voilà.
Ils vont monter jusqu'à une certaine source. Ouais, on peut dire ça comme ça, jusqu'à arriver à une certaine source, se remplir encore plus et redescendre vers nous.
Okay.
D'accord. C'est ce qu'on voit dans les sidourim, même très conventionnels. Vous voyez que c'est marqué que depuis le début de la tefila jusqu'à Baruch Shema, on est Be'olam à Asiya. Depuis Baruch Shemar jusqu'à la fin des psukei des Imra, Beyetira, c'est quoi ? C'est qu'on monte les mondes. Donc si tu veux, chaque monde, il a une graduation. Chaque monde, il a intériorité, extériorité. Et par l'intermédiaire de la tefila que tu fais, tu es en train de faire entrer des flux de 1 à 10. Une fois que les flux de 1 à 10 sont arrivés à leur summum, alors là, il faut monter dans le monde supérieur. Comment on monte ?
Il tire.
Comment on monte dans le monde supérieur ? C'est quoi l'ascenseur ?
C'est le flux intérieur.
Kaddish. Donc, dès que tu fais Kaddish, tu montes dans le monde supérieur. Et de nouveau, tu recommences de 1 à 10. Mais maintenant, tu arrives déjà avec un bagage. Tu arrives avec les 10 premiers niveaux du monde que tu as déjà tiré. Donc, tu vas dans le deuxième monde, on va dire le monde qui s'appelle Olam Hayetzira, depuis Baruch Shamar jusqu'à Yotzer. Et de nouveau, tu montes de 1 à 10. Tu arrives à 10, de nouveau Kaddish. Et après, de nouveau de 1 à 10 jusqu'à arriver à la Amida qui est le summum. D'accord ? C'est ce qu'on appelle Olam Hatzilut, le plus haut monde. Après, qu'est-ce qui se passe ?
On redescend.
On fait revenir tous les flux. D'accord ? Donc ça, c'est le schéma, on va dire, d'une manière grossière, si j'ose m'exprimer ainsi.
Mais quand on dit, je suis classé par exemple Ashkenazi, mais Sfaradim, c'est pareil.
Alors, ça a raison, c'est pas pareil. Mais c'est pas... Non, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, la vérité, d'un point de vue, on va dire, logique de ce qui se passe, c'est presque mieux ce qu'eux, ils font. Ouais.
À la fin, ils font plusieurs.
Ah ouais, non, ça, il n'y a pas besoin de refaire plusieurs Kaddish. Mais eux, si tu veux, ils font Kaddish. Ils font Kaddish juste avant Baruch Shama. Nous, entre guillemets, c'est un peu une question pourquoi on fait Kaddish avant Odou. Parce que théoriquement, tu vois que ce n'est pas encore le moment où on passe de monde. Tu vois qu'on ne passera de monde qu'avant Baruch Shamar. Et si on admet que le Kaddish, d'un point de vue de Stot, c'est l'ascenseur qui fait passer de monde en monde, alors quand tu veux passer à l'étage supérieur, c'est-à-dire juste avant Baruch Shamar, bah, utilise l'ascenseur, utilise le Kaddish. Qu'est-ce que tu me fais Kaddish avant Odou ? D'accord ? Tu es encore bien avant Baruch Shamar. Donc par rapport à ça, ça s'accorde un peu mieux ce qu'ils font. D'ailleurs, chose importante à savoir, le Kafar Chaim, alors le Kaddish, d'où l'importance du Kaddish. Ne jamais louper aucun Kaddish. S'il y a une possibilité de faire Kaddish, faut pas être mis à tel. Des fois, tu as les gars qui sont au Bata Knesset, chacun fait les corbanes dans son coin. Ils pourraient faire Kaddish juste avant Odou, ils zappent. Il faut surtout pas zapper le Kaddish. Hyper important le Kaddish. C'est ce qui permet que tous les flux qui ont été tirés depuis le début de la tefila jusqu'à Baruch Shamar montent dans le monde supérieur. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant.
Tu as du Kaddish, par exemple, si tes parents sont vivants,
par exemple. Oui, badaï. Pas de problème, c'est pas un Kaddish qui concerne les endeuillés. Mais le Kaddish,
il n'y a pas de Kaddish. C'est la personne qui fait Kaddish.
Ouais, s'il n'y a pas de Kaddish, d'après la Kabbalah, on fait le Kaddish. On fait quand même le Kaddish. Ouais, on fait quand même le Kaddish. Parce que voilà, il a cette force de faire passer. Alors c'est dommage, tu ne les fais pas passer de monde en monde. Maintenant quoi ? Donc maintenant, des fois, ce qui peut arriver, c'est qu'il n'y a pas 10 au moment de Odou. Les gens, ils ont un peu tardé, tu vois.
Oui.
Il y a des gars, des fois, ils pensent que le début de la tefila, c'est à Baruch Shamar ou quelque chose comme ça. Donc ils arrivent depuis le début à Baruch Shamar. Il faut faire attention, tu vois des bêtes ecclésiotes, ils se sont tellement adaptés au mauvais système que les gens, ils arrivent à Baruch Shama, ils te mettent deux horaires. Ils te mettent l'horaire des corbanotes, bon, qui n'intéresse personne, ouais, ils te mettent l'horaire de Baruch Shama. Il y a un type, il a marqué Shmoné Esré, point d'interrogation. Ça veut dire que si déjà marque aussi l'heure de l'Amida, les gars, ils viennent pour l'Amida et ils finissent, quoi. Donc, fais très attention, tu vois que c'est très important de venir depuis les corbanotes, parce que par l'intermédiaire que tu récites les corbanotes, tu tires justement ces flux et tu fais monter de 1 à 10 toute cette graduation dans le premier olam pour pouvoir après le faire passer dans l'olam supérieur. Donc, puisqu'on ne passe d'un monde à un autre monde que juste avant Baruch Shamar et pas avant Oudou en réalité, comme le Kaddish pourrait le laisser faire croire, si jamais il n'y avait pas 10 au moment de Oudou, le Kafar Haïm Sofer rapporte que le minag de la Yeshiva des Mekoubalim à Bethel à Yerushalayim, c'était que si les 10 se sont réunis juste avant Baruch Shamar, ils font Kaddish à ce moment-là. Il ne faut pas se dire, bon, de toutes les manières, on a foré le Kaddish, on ne l'a pas eu puisque les gars ne se sont pas réunis 10 avant Oudou. Maintenant, on l'a perdu, on l'a perdu. Si tu es encore avant Baruch Shamar, tu le fais. D'accord ? Donc voilà. Donc en tout cas, on a bien compris que le Kaddish, c'est ça qui va faire l'ascenseur entre les mondes. Jusque là, c'est bon ? Donc on a une graduation de 1 à 10, extériorité, intériorité. L'extériorité, le niveau 3, n'a pas la force de monter lui-même. Il a besoin du niveau 3 qui est son jumeau, mais intériorité, qui va l'attraper et le prendre avec lui.
Mais c'est automatique.
Alors là, oui. Quand l'intériorité monte.
Le problème en vérité, finalement, l'extériorité qui ne monte pas tout seul, qui doit dépendre de l'autre, si c'est automatique, il n'y a pas de problème.
Voilà, tu as raison. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu vas voir quelque chose de superbe. Alors maintenant, regarde. Si on a raison, oui, c'est sûr qu'on a raison dans tout ce qu'on a dit. Donc, les mitzvot qu'on a fait avant le début de la tefila, déjà, ont commencé à tirer les flux de l'extériorité. Avant la tefila, tu as fait quoi?
Tefilin,
talit katan, talit gadol, tefilin de la tête, tefilin du bras. Ouais, ça, donc ouais, tout ça c'est des mitzvahs d'extériorité.
Ils mettent à la maison les tefillines.
Ouais, donc, c'est très bien. Ouais, donc c'est encore ça, mieux. C'est comme mieux ça, que tu fais, ouais, c'est sûr. Tu fais comme le Zohar, c'est encore mieux. Donc, tu as déjà travaillé dans l'extériorité. Maintenant, l'extériorité que tu as tiré tous ces flux-là n'a pas encore la force de monter. Pourquoi? Parce qu'elle est extérieure. L'extériorité, comme on l'a décrit, elle n'a pas la force de monter. Mais quand son jumeau d'intériorité de Dibour va lui monter, elle pourra monter avec. Alors maintenant, regardez comment c'est magnifique maintenant. Qui est le jumeau du Talit Gadol? Baruch Shamar. Baruch Shamar. Donc quand on va dire la prière de Baruch Shamar et qu'on va travailler l'intériorité et qu'elle va réussir à monter, on montre en attrapant les tzitziot que l'extériorité qui est le jumeau de Baruch Shamar va maintenant lui aussi avoir la force de monter. Et c'est pour ça qu'on les rallie les deux ensemble. On fait Baruch Shamar avec les tzitziot dans la main pour montrer qu'à ce moment-là, l'extériorité qui jusqu'à maintenant n'avait pas eu la force de monter va pouvoir monter. La même chose, juste avant, il a fait, il a fait. Tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que juste avant Yotzé, on se met à toucher les tefillines du bras? Quel rapport? Quel rapport? Quel rapport? Voilà.
Le pchat, le pchat.
Voilà, le pchat, c'est quoi?
J'aurais dit parce qu'il y a trop de temps qui est passé.
Ouais, j'ai c'est light, c'est light. Tu vois que c'est très light. On pourrait dire pourquoi pas, mais ça fait light, quoi, comme histoire. Et qu'est-ce qu'on va dire? Et pourquoi tu ne touches pas celui de la tête aussi?
On le touche à un moment
donné. Non, ouais, ah, quand ça, quand on le touche.
Après, je mettrai avant. Après,
non. À quel moment on le touche celui de la tête? Juste avant Hachem Sadat Tiftar. Juste avant la Amida. Pourquoi? Parce que de nouveau, c'est les jumeaux. Les tefillines, ils ont aussi géré des flux dans l'extériorité. Mais comme ils étaient extérieurs, ils n'ont pas réussi à monter plus haut. Dès qu'on arrive à leurs jumeaux en intériorité, leur jumeau intérieur va les attraper et les faire monter avec eux. Donc, qui est le jumeau dans la phase de parole du tefilin du bras? C'est Yotzer. Donc, dès qu'on arrive à Yotzer...
Après, je sais pas qu'on prend les tzitzit.
Alors ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est aussi marqué dans Shara Kavanot. Ouais, c'est marqué dans Shara Kavanot qu'il faut attraper et qu'il faut les mettre contre le cœur. Mais ça, c'est encore une autre.
Tu prends les 4 ou les
2? Ouais, il faut prendre les 4. D'après le Gaon de Vilna, on prend les 2, mais d'après les Sfaradim, d'après le Shara Kavanot, on prend. Non, ouais, ça, c'est encore une autre histoire. Ça, c'est encore une autre histoire. Bon, et qui est le jumeau intérieur du tefillin de la tête? C'est Hachem Seta Tiftar. Tu vois?
Le plus haut niveau.
Voilà, exactement. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, on prend et on touche pour montrer, on fait en fait un remèze. Que maintenant qu'on a affaire au jumeau intérieur, qui est la phase de parole, donc ou Baruch Shema, ou Yotzer, ou alors Hachem Sebeda Tiftar.
En fait, il rentre en action.
Voilà, il rentre en action l'extériorité, et donc on attrape l'extériorité pour montrer que maintenant les deux ensemble vont avoir la force de monter. Tu vois comment c'est beau, comment c'est clair? Bah, c'est, si tu n'as pas ce, comment dire, ces connaissances-là, tu ne comprends pas très bien. Alors, tu vois, dans le sidour, c'est marqué, alors maintenant on attrape les tefillines du bras et on. On dit Baruch Atah Hashem, etc. Bon, tu comprends pas très bien pourquoi la tefillin d'Atel et de Tzitziot. Pas très clair. Donc, toujours quand tu as une lecture de Sod, ouais, les choses prennent une autre ampleur en ta Avodat Hashem. Tu comprends les choses d'une manière très très différente. Très très différente. Et comme ça, dans plein de choses que tu pratiques tous les jours, que jusqu'à maintenant tu comprenais pas, et puis tu te mets à comprendre pourquoi tu fais les choses. Voilà, par exemple, avant, comment dire, avant de manger, on dit Mizmor les David, Hachem Roi Ilo Ersa. On fait ce Mizmor-là. Quel rapport? Pourquoi faire ce Mizmor-là? Qu'est-ce qu'il a à faire? Alors, tu vois que d'après la Kabbalah, c'est marqué dans l'Ekidva Arizal que dans ce Mizmor, il y a Zan Tevot. Il y a Chamishim Vesheva Tevot. Il y a 57 Tevot. Donc Zan, les Rachet Tevot, c'est pour nous donner les maisonnotes. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on fait cette. Ça.
C'est comme la Amida 3 fois par jour.
Voilà, exactement.
La même Gematria.
Ouais,
c'est ça. Les Sfarim qui font le Mizmor des Ashkenazim, les Choux.
Ah, Beshuv Hashem Shiva Tzion. Ouais. Ça c'est la fin du repas. Ça c'est la fin du repas, ouais, pour se rappeler du Chorban Beit HaMikdash. Ouais, pour se rappeler du Chorban Beit HaMikdash. Moi, je fais les deux. Mais tu fais le sommisement là pour te rappeler du Chorban Beit HaMikdash et juste avant de faire Birkat Hamazon, fais le Menatzer. Juste avant Birkat Hamazon. Donc comme ça, il y a une panel de choses, voilà, la même chose. Pourquoi mettre deux tefillin ensemble? Qu'est-ce que ça signifie?
Ah, tu fais les deux. Tu fais à toi ce sommisement là et le sommisement de Menatzer.
Oui, mais à la fin du repas.
Tu dis même Reni Chovin.
Ouais.
Et après?
Après, tu fais la Menatzer.
Ah, et avant, tu chantes.
Ouais, tu fais ça pendant le repas. Parce qu'il y a un dîme que pendant le repas, il faut se souvenir de Chorban Beit HaMikdash.
Ah, c'est pour ça qu'ils font, parce qu'eux, ils remplacent.
Parce que tu vois d'ailleurs que Shabbat, ils ne font pas ce mizmor-là. Shabbat, ils disent un autre mizmor. En Chol. Ouais, si je me souviens bien.
Parce que dans Shabbat, dans le Bérezon, on rappelle M. Beit HaMikdash.
Ouais, mais il faut se rappeler pendant le repas. Pendant le repas, il faut se rappeler. D'accord? Donc, tu vois la même chose par rapport aux deux tefillines. Ouais, pourquoi mettre les deux tefillines? Qu'est-ce que ça signifie, mettre les deux tefillines ensemble? Ouais. Et comme ça, une tonne de choses que si jamais tu n'as pas un minimum de connaissances dans le stod, tu le fais, c'est bien, quand la Kabbalah que tu fais toutes ces choses-là. Mais ta avodat Hashem, elle est un peu fade, tu comprends? Ouais. Ça manque pas d'exotisme, mais ça manque de vie.
Comment ça range par rapport à ce qu'il a dit? Il y a une mienne comme ça de sortir avec les tefillines.
Oui.
Mais il y a aussi une mienne au mikvé.
Ouais.
Alors comment on fait?
Alors
ça, j'ai jamais compris.
Alors non. Alors, ce que tu peux faire, ce qu'on fait en général, c'est comme ça. C'est que bon, si tu vas pas au mikvé ce jour-là,
au top, ils font tikkun ratzot.
Voilà. Alors déjà, même ça, il faut en discuter. Si déjà vous avez ouvert le sujet de tikkun ratzot, c'est important d'en discuter parce que même ça, malheureusement, c'est très délaissé. Et vous verrez que d'après le sod, kriyat shema l'amita et tikkun ratzot, ce sont des tefillot sinekwanon. Ça veut dire de même que ça viendrait à personne à l'esprit de zapper Shacharit, Mitra ou Arvit. Ouais. Tikkun Chatzot et Kriyat Shema Lamita, c'est des tefillotes.
Quand tu dis Kriyat Shema Lamita, c'est tout le Shema Israël.
Tout le Seder. Alors attention, si tu ne vas pas dormir, pour X, voilà, par exemple, cas classique, qu'est-ce que tu fais tu vas veiller. Tu vas veiller, tu ne vas pas aller dormir ce jour-là pour X raisons, tu sais que tu as plein de travail à faire. Tu ne vas pas aller dormir ce jour-là. Alors tu fais Kriyat Shema Lamita ou pas? Tu fais ou tu fais pas?
Je pense que la ville de Shavuot là.
Voilà.
On était là-bas et on a cherché dans le Shulchan Aruch pour trouver la source. Pourquoi on doit faire quelque chose? On l'a fait nous.
Il a fait.
Les rabbins disent de le faire.
Voilà, il faut le faire.
Où c'est écrit?
Parce que dans le Shulchan Aruch c'est pas marqué, mais c'est une filet d'après le sod sine qua non. D'après le sod, que tu ailles dormir ou que tu n'ailles pas dormir, tu dois faire Kriyat Shema Lamita. C'est une fila qui engendre des tikkunim dans les mondes spirituels qui n'ont pas à faire avec ton sommeil ou pas.
Il m'a dit. De peur que tu dors.
Il faut le faire parce que c'est une fila, comme n'importe quelle autre fila. Alors, on a la mauvaise tendance à croire que c'est généré par le sommeil. Si on dort, on le fait. Si on dort pas, on le fait pas. Mais c'est pas vrai. Il faut toujours faire Kriyat Shema Lamita. Et maintenant, chose encore plus importante à savoir.
Est-ce que c'est possible que c'est aussi par rapport aux quatre Kriyat Shema?
Oui, c'est sûr. Donc c'est aussi par rapport à ça, c'est sûr. Maintenant, chose encore plus importante à savoir, et que malheureusement beaucoup de gens négligent cette chose-là par manque de connaissance, c'est que à quelle heure, ou plutôt jusqu'à quelle heure, tu fais Kriyat Shema Lamita? Admettons que quelqu'un il fait jamais avec la bracha, il fait jamais avec Shema Malchut. Admettons, alors très bien, sans faire la bracha, jusqu'à quelle heure?
Oui, c'est Khatat.
Bien fait. Il ne faut pas dépasser Khatat à l'aïla. Les gars, ils pensent qu'ils vont dormir à 1h, 2h du matin, ils font Kriyat Shema avant d'aller dormir à 1h, 2h du matin. C'est une grave erreur.
Pourquoi?
Parce que chaque tfila, encore une fois, est metaken de olamot ruchanim. Elle tire des flux vers des olamot célestes. D'accord? Donc maintenant, on sait que ces flux et ce que tu vas faire dans ces mondes-là n'aura pas du tout le même impact si tu le fais avant Khatat ou si tu le fais après Khatat. Si tu le fais avant Khatat, tu mets toute la force dedans, tu fais du 100%. Si tu le fais après Khatat, peut-être que tu gères quelque chose comme 5%. Alors c'est vrai que d'après le pshat, tout le temps que le soleil s'est pas levé, que c'est pas encore l'Otei Shachar, c'est encore le moment de faire Kriyat Shema Lamita. Mais d'un point de vue de sod, la force de cette fila est seulement si on fait avant Khatat. Donc il faut toujours faire très attention à essayer de ne pas dépasser Khatat. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que tu dis, ouais, mais moi je vais pas aller dormir maintenant. Ah, c'est pas grave. D'après le sod, ça n'a pas à voir avec ton sommeil. Ça veut dire que si tu sais que tu vas aller même aller dormir à 2-3 heures du matin, aucun problème. Avant Khatat. Non, alors si tu ne fais pas la bracha, il n'y a aucun problème. Tu peux parler de ce que tu veux après. On parle bien que le gars ne fera pas la bracha. Donc, admettons que tu vas dormir à 2h du matin et que Khatsot, c'est à minuit et demi, minuit ou même 11h30, tu prends ton sidour, tu fais tout le kriyat shema la mita du début jusqu'à la fin, bien évidemment, sans faire la bracha de Amapil, Shemu Malchut, tu dis Amapil, ouais. Tu sautes Shemu Malchut, tu dis pas Shem Hashem, et tu fais tout ton kriyat shema avec Anabechoar, Yoshe Beseter, Yevarechecha Hashem, Akol. D'accord ? Et donc, on est au top.
Lors de Batsheva.
C'est lequel ça ? Non, ça c'est un tikkun chatzot. Un tikkun chatzot.
Non, dans chatzim. Ah, il y en a qui font un marocain, je crois qu'ils font ça. Non, c'est drôle, c'est drôle, on a ça. Marocain. Nous, je... c'est un truc spécial, ou pas ?
Nous, on fait comme le hari, on n'a pas ça.
Ouais, par contre, il y a raison dans le.
Ah bon, parce que c'est. Là. Mais tu veux voir un sidour ?
Non, non, je vous fais. Où vous me faites ? Et sidour, non, j'ai un sidour de minag d'Afrique du Nord.
Le minag de qui ?
Afrique du Nord.
Ah oui. Afrique du Nord, c'est marocain alors, oui.
Ouais, c'est marocain,
c'est ça.
Ici on est égyptien, frère.
Hein. Ah, mais celui-là, ce que tu m'avais offert, hein ? C'est de Bahraki, non ?
Voilà.
Ouais, je l'ai, moi. Ah, il est bien utilisé, le tien. Hein.
Ouais, non, c'était le matin, celui-là. Et je suis pas le soir, celui-là. J'ai jamais essayé de ressortir.
Alors, tu vois, dans le Kriyat Shema la Mita, théoriquement, ou à quel moment, à quel niveau ça se situe, ce Mizmor ?
C'est un Mizmor et David.
Ah ouais, t'as raison. Qu'est-ce que ça fait là ? Bomrim, l'amnesa. Très bien. Alors, très bien. Il faut qu'on en parle aussi. Très bien.
Tu vois ça, c'est je le saute parce qu'il est trop long.
Oh, si déjà, on en est arrivé. On va en discuter. Tu vas voir combien tu. Bon, on va voir un instant. Bon, déjà, tu vois que ça, c'est le sidour du Ben Ishraï. Donc, c'est fait d'après les écrits du Ben Ishraï. Donc, tu vois que. Ouais, ça, c'est du Ben Ishraï. Tu vois, Od Yosef Raï. D'après Rabbi Yosef Raïm, le Ben Ishraï. Donc, tu vois que là, en l'occurrence, dans Kriyat Shema Lamita, il te ramène seulement les textes qu'a ramené le Harizal dans Shara Kavanot concernant Kriyat Shema Lamita. Alors, voilà, tu vois, il est là. Donc, si tu veux, c'est ici. Alors, tu vois qu'il n'y a pas ça. Tu vois que ça commence ici, les Shemichud, Shema. Bah, donc, ça, c'est la bracha de Amapil. Ouais. C'est pour ça que c'est marqué en petites lettres pour te dire que tu sautes si jamais tu. Va pas dormir directement. Voilà, tu barouh, directement tu fais ma pile. Là aussi, tu fais attention, tu sautes. Et barouh, Amir, la Olam, Kolobir, Vodo, sans faire Shem Hashem.
Là, on fait entièrement Shem.
Tout Shema Israël, pas comme dans le Patach Eliaou, Rav Charbit. Ouais, Rabbi Eliaou Charbit. Pas comme les Français, attention. Tout. Pas comme Rabbi Eliaou Charbit qui avait ramené. Bon, il faut, tu vois, ça aussi, il faut évoluer par rapport à Patach Eliaou. Il y a plein de choses dans le Patach Eliaou. Il y a plein de choses dans le Patach Eliaou qu'il faut arrêter de faire parce que bon, ça a été écrit, mais. Mais voilà, et tu comprends, et quand tu étudies les choses dans la source, toute ta Vodat Hashem prend une autre, comment dire, une autre forme.
Souvent, on peut arriver à des trucs comme ça en petit, les corbanotes à la fin, par exemple.
Ouais,
les
Chabert. Ouais. Il y a plein de choses qu'il faut savoir que, encore une fois, si tu n'es pas versé un minimum, tu fais des bêtises. Alors, par exemple, chacun va me montrer, regardez, on rentre d'une histoire dans une autre histoire, mais à l'instant. On va revenir en fin de compte là où on en était. Je veux d'abord, si on a déjà parlé aussi du Patach Eliaou, parce qu'on cite beaucoup de choses, je voudrais que vous me montriez. Chacun, comment vous faites Baruch Ata Hashem dans la Amida ? Comment vous vous prosternez dans la Amida ?
Moi, je suis comme les Sfaradim.
Montre-moi, c'est quoi comme les Sfaradim ? Montre-moi, qu'est-ce que tu appelles comme les Sfaradim ?
Baruch Ata
Hashem. Ouais. Comment tu fais Hashem ? Vas-y, on va faire Hashem.
Baruch Ata, j'ai la tête. Hashem.
Très bien. Et dis-toi comment tu fais, je dis rien pour l'instant. Après, c'est trop facile. Toi ? Attention.
Baruch Ata.
Ah, là, tu fais les pieds.
Ah, ouais, je fais les genoux.
Ouais.
Mais tu dis que Hashem, je vous redresse.
Très bien. Et toi, comment tu fais ?
Moi, je suis comme Rabbi Yishui, mais
avec lui.
Baruch, Chapta.
Très bien. Alors, très bien. Alors, regardez. Personne n'a raison. Pas mal. Fais gaffe,
c'est qui le plus proche ?
C'est toi. Le proche, c'est toi. Comment il faut faire très attention. Déjà, ce qui était marqué dans le Patach Eliaou, que Baruch, on fléchit les genoux. Ouais, c'est Menag Ashkenaz. Les Sfaradim n'ont jamais fait ça, jamais, au grand jamais. Rabban Sion Moutsafi, il dit qu'il a vu tous les rabbanim de Porat Yosef, Rabbi Ezra Atia, tous les rabbanim de Porat Yosef, jamais personne n'a fléchi les genoux. Personne. D'accord ? Donc, Baruch, moi je me souviens, j'ai demandé à Rabbi Nissim Peretz Zatzal de me montrer, on était dans la rue, il a tiré son frac, ouais, pour me montrer exactement comment il fallait faire. D'après la Kabbalah, qui est le Menag des Sfaradim, là tu vois en l'occurrence, les Sfaradim ont complètement calqué sur ce qui est marqué dans la Kabbalah. Donc, c'est qui que tu sois en ambiance Sfarad, que tu sois dans le Pshat, ou que tu sois dans la Kabbalah, tu dois faire de la même manière. Si vous regardez dans le Shulchan Aruch, Siman Kuf Yud Zayin, vous verrez que le Shulchan Aruch à aucun moment ne mentionne de fléchir le genou.
Tu fléchis un peu aussi.
Ouais. À aucun moment. Qui c'est qui ramène de fléchir les genoux ? Le Mishnah Berurah au nom du Chayei Adam. D'accord ? Ce qui n'est donc pas du tout les Poskim Sfaradim. Kafahaïm ben Ishraï, jamais personne n'a jamais ramené de fléchir le genou. Donc, Barour que le corps. Barour. D'accord ? Ata que la tête. Donc, jusque-là, c'est bon. Maintenant, comment on se redresse ? De la même manière qu'on s'est courbé. Pas d'abord la tête, d'abord le buste. Barour, ata. Hachem, tu relèves d'abord le buste avec la tête inclinée. Et à la fin d'Hachem, tu relèves la tête. De la même manière que tu t'es incliné, corps, tête, tu te relèves. Corps, tête. D'accord ? Donc ça c'est par rapport à ah, tu vois ah, il faut qu'on se corrige parce que on sait
qui bouge comme ça.
Alors d'après la Kabbalah on se bouge pas. Ouais. Bon après il faut voir si quelqu'un c'est dur pour lui de se concentrer. Ouais, statique. Si ça t'est dur de se concentrer, moi je vois même Rav Yaakov Hillel il bouge un peu. Ouais, même lui il bouge un petit peu pendant la Shmoneh Esrei parce que c'est un peu difficile. Donc maintenant revenons à ce mizmor très intéressant. Oui, donc là on a un truc très intéressant. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a ici ? On a que nos amis marocains ont rajouté ce mizmor pour une raison qui leur est connue à eux, pourquoi ils ont voulu rajouter ce mizmor, très bien, sroutam. Maintenant, apparemment, ici, on est un peu embêté. Pourquoi on est un peu embêté ? Parce que vous savez très bien que dans la nuit, on ne fait pas de mikra. On ne lit pas de Tehilim. Ouais, le Harizal a dit, la nuit, on ne fait pas de mikra. Seulement les choses qui sont de la tfila. Ouais, seulement les choses que lui, il a instituées qui sont de la tfila. Le Sheb, c'était, on peut faire, tikkun ratzot, tous les mizmor, ils me sont dans tikkun ratzot, on fait. Maintenant, hormis ça, on ne fait pas. Donc là, c'est un peu délicat. Si c'est Bémet Tomina, que t'es marocain et que tes pères ils font comme ça, bon, on pourrait se dire, tu continues. Mais si c'est une pièce rapportée déjà chez toi, de toi-même, qu'en général tu fais pas ça, mieux vaut te. Comment dire te. Voilà, donc tu vois, maintenant, ne le fais pas parce que tu as pas les trop longs, mais ne le fais pas parce que. Ouais. Mais tu vois, mais ça se déplie sur beaucoup de choses. Par exemple, avant de faire Bekat Eleban à la nuit, tu vous faites tous les mizmorim ? Rosh Chodesh, vous faites Barich Nafshi la nuit ?
Non.
Ouais. Il y en a qui font, mais c'est mal pire des fois. On est mal pire parce qu'on est en Afrique du Nord en fait. Ça.
Mais pourquoi c'est bien ? Parce que ça rappelle
le
les gens.
Le problème, c'est que des fois, on est magnifique.
Dans la mida de faire.
Ah, ça c'est bien aussi, c'est bien. Mais d'un autre côté, t'es un peu en problème. Pourquoi ? Parce que dans les Zéladis, on fait pas de mikrabalaïla. Il a pas dit de faire Barakhina Fshir Roche Kodesh. Non ? Donc tu vois que le minhag de Bethel et le minhag de Chevron, alors il faut savoir c'est quoi le minhag de Chevron. Rabbi Eliyahu Mani était le rav du Ben Ishraï. Il est monté en Eretz Israël et il a étudié pendant 2 ans et demi à Bethel, à la Yeshiva des Mekoubalim. Il était lui-même un grand Mekoubal déjà depuis Bagdad. Il a étudié pendant 2 ans et demi à la Yeshiva des Mekoubalim à Yerushalayim. Après ça, il s'est installé à Chevron, il est devenu le rav de la Kehila de Chevron et il a refondé une nouvelle Kehila qu'il a appelée Beth Yaakov. Et à Beth Yaakov, il a repris les minhagim de Bethel. Donc Beth Yaakov et Bethel, ce sont. Des frères jumeaux. Alors il y a des choses que Rabbi Eliyahu Mani comprenait dans la Kabbalah de manière un peu différente que les Chachamim de Bethel. Il s'est permis dans sa Kehila, lui, une fois qu'il a fondé, de changer un peu. Alors Rabbi Yaakov Hillel, il a sorti un livre avec tous les minagim de Beth Yaakov. Ouais, tous les minagim que Rabbi Eliyahu Mani il a institué à sa Kehila à Beth Yaakov, qui sont donc tous des minagim basés et fondés sur la Kabbalah. En l'occurrence, on voit que ni à Bethel ni à Beth Yaakov, il faisait pas Barichin Afshir Rosh Chodesh le soir. D'accord.
C'est
pour ça que les Yerushalmi font pas. Ouais, exactement. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de minagim qu'on appelle minag Yerushalmi, ça vient de où en fait ? De Bethel. Par exemple, minag Yerushalmi hyper connu, et même Rav Ovadia il faisait comme ça.
Minag Yerushalmi
c'était
de répondre à tous les brachot.
Ouais, ça. Ah, ça, c'est encore une autre histoire. Et ça, il faut voir pourquoi ils font pas. Ouais. Mais par exemple, tu vois que minag Yerushalmi, ils font Arvit à la Shkia.
Ah oui.
D'où ça sort ?
Parce que j'étais dans le sud. Ils m'ont pris pour un fou parce que j'ai.
Bah oui, parce que j'étais un minyan à la nuit pour occuper. Rav Ovadia, il pouvait avoir autant de minyanim qu'il voulait, mais il faisait arbitre à la Shkia, pas à la nuit. Après la nuit, il refaisait Kriyat Shema. Pourquoi ?
Les Mekoubalim font ça ?
Au contraire, ça vient des Mekoubalim.
Ah, parce qu'il va pas faire une grande journée.
Oh, le Shalmet Tzibour, il ramène qu'Alpi Az-Zohar, c'est bien que les trois tfilot, Shacharit, Mincha et Arvit, soient tous dans le jour. Un maximum dans le jour. Parce que le jour symbolise le chesed, la nuit, c'est plutôt un aspect rigoureux de din. Donc, plus on peut essayer de tirer la tefila de Arvit encore dans un espace où il fait relativement jour, c'est-à-dire la Shkia, on préfère. Donc à Bethel.
C'est un safek Yom Bethel.
Voilà, donc c'est le meilleur qu'on puisse faire, quoi. C'est entre les deux.
Non, on a attendu la nuit.
Ouais, quoi. Dire, aujourd'hui, ils attendent 25 voilà. minutes, 40 voilà. minutes, voilà. Razonis, voilà. trucs comme ça. Voilà. Au contraire, Amina Gerushalayim. Alors très souvent, il faut. C'est très bien, très souvent, de se fier et de se baser. Pas toujours, hein. Amina Gerushalayim, où là-bas, tu vois que très souvent, Amina Gerushalayim, c'est en fin de compte Minag Bethel. Ouais. Donc à Bethel, on faisait attention de faire Arvit avant la nuit, à la Shkia. Donc moi, les Khatrila ici et là, on a des minyanim à la Shkia, les Khatrila, je prie Arvit à la Shkia.
Mais tu peux tout le temps.
Ah, quand je peux pas, je peux pas.
Non,
mais
je veux dire,
non, mais c'est déjà, t'as raison, même à Bethel, il faisait à la nuit.
Non, mais c'est-à-dire que quelque part, si Moshe Shabbat, tu peux pas, c'est-à-dire que finalement, non, c'est.
Mais non, parce que Moshe Shabbat, il y a une Alpi à la Haïpev, comme c'est marqué dans le Shulchan
Aruch.
Oui, dans le Shulchan Aruch, c'est marqué Mefourash. Oui, dans l'Avdala, c'est marqué Mitpalel Adam, Shel Motzei Shabbat, Be Shabbat, Ve Mavdil Adam, Shel Motzei Shabbat, Be Shabbat. tu fais attention. Comme la nuit n'est pas encore tombée, sortie, tu fais pas de melacha. Mais dans le principe, tu peux faire et Arvit et Avdala avant Motsé Shabbat.
Mais ton minra, tu fais quoi, minra Ketana ou minra Gdala?
Alors ça aussi, il faut en discuter. Oh là là, vous voyez, vous me prenez d'un sujet à l'autre, d'un sujet à l'autre. On n'a pas avancé. Attends, là, doucement, on a résolu le problème de Rabbi Usharbit qui a dit de flécher le genou. On a décidé, Bénédia, de plus flécher les genoux. Ouais, c'est terminé les genoux. On a compris comment on se redresse. Ouais, tout ça, c'est basé sur des sodotes. Alors, c'est pas, on peut pas encore vraiment les comprendre, mais c'est pas par hasard que quand on fléchit, on fait barour d'abord le corps et après la tête, et après quand on dit, on fait d'abord le corps et à terre, on fait après la tête, et HM, on se redresse de la même manière qu'on s'était incliné. D'ailleurs, on voit que c'est déjà insinué dans les propos de la Gemara. La Gemara dit, kola korea, korea, be barour, kola zokef, zokef. Tu vois que la Gemara, elle a déjà elle-même un langage redondant. Tout celui qui se prosterne, se prosternera à barour. Tout celui qui se redresse, se redressera à Hachem. Du fait même que la Gemara a cette redondance, les Chazal ont appris que les prosternations se font en deux temps. D'abord le corps, après la tête. Et que le redressement doit aussi se faire en deux temps. Parce que tu vois que la chaîne de la Gemara est redondante. Kola korea, korea bebarur. Kola zokef, zokef b'Hachem. Donc tu vois que déjà de là, les Chazal ont appris que ça doit se faire en deux temps. Donc on a résolu ce problème-là. On a résolu le problème du mizmor de Batsheva. On a résolu le problème de Barichi Nefshi. De Rosh Chodesh, on a résolu également l'histoire de faire Arvit à la Shkia. Où est-ce qu'on en est? Alors, qu'est-ce
mincha.
Que
vous. Alors, Mincha. Est-ce que tu
alors, mincha. De faire mincha. Alors, Mincha. D'après le Shulchan Arour, Mincha doit se faire à. On doit faire Mincha Gdola, d'après le Shulchan Arour. En Chol, je parle. Mincha Gdola en Chol. Ouais. D'après le Shulchan Arour, Vadaï. Mincha Gdola. D'après le Son, exactement l'inverse. Mincha Ktana. Le Harizal faisait Mincha Ktana. D'accord?
Il faisait Mincha Ktana. Il y a un chidouche de Rabbi Moshe Khalfan Akohen. Je te dis, vaut mieux faire mincha ktana be'achi que mincha gdola be'tzibur. Dans son chou, tu vois le mincha.
Pourquoi? Parce que le mincha, quand tu disais, c'était de faire comme ça,
de
faire
mincha la nuit. Il me dit, je vais à un rafusien, il m'a dit que c'était pas Mekobal.
De faire
comme ça be'achi, etc. C'est un ribouche à lui, c'est un ribouche.
Bon, il faut voir pourquoi il dit ça. Mais en tout cas, si tu te fies Shulchan Aruch Harizal, d'après Shulchan Aruch, en chol, je parle bien, mincha gdola, en comment dire, d'après le Harizal, mincha ktana. Donc déjà, tu as ici une première divergence. Il faut voir d'après quelle opinion tu veux trancher. Maintenant, encore une fois, on est d'accord. Ni d'après l'un, ni d'après l'autre, il n'y a pas une bracha levatala qui est en jeu ou quoi que ce soit de ce style-là. Il faut voir. Aujourd'hui, les gens, ils font beaucoup. Tu as raison, il y a aussi le lien d'être zaris
par mitzvot. On avait vu que c'était une coula de faire gdola. Ouais. On avait vu qu'en fait, ça comprenait un korban.
Voilà.
Que pour le Pessah.
Exactement.
Qui permettait qu'on faisait... de faire plus tôt parce
exactement.
Qu'on arrivait à enfreindre.
Exactement. Exactement. Exactement.
Donc, c'est pour ça qu'on fait le gdola. Donc exactement. Gdola, c'est
Bediavad. C'est là où les tu t'as raison. Mais une fois que ça a été nifsak dans le Shulchan Aruch de faire comme ça, tu peux plus vraiment dire que c'est Bediavad. Après le Shulchan Aruch, le Khatrela, c'est de faire Mincha Gdola. De faire donc Mincha Gdola, ça nous sort quelque chose comme combien comme... Oui, de faire Mincha Gdola. J'ai pas ici de Zé, mais c'est sûr. C'est sûr. Il dit, mais faudra le faire Mincha Gdola. Maintenant, d'après le Sod, on fait Mincha Ktana. Là où il pourrait y avoir une différence et que le Sod pourrait s'accorder avec le Pshat, c'est à Shabbat. Pourquoi? Parce qu'à Shabbat, encore une fois, on franchit et on progresse dans des mondes spirituels auxquels nous n'avions pas accès les jours de Chol. Les jours de Chol, entre guillemets, nous laissent un peu pieds et mains liés par rapport à notre ascension dans la spiritualité. C'est le Chol. Tu comprends, ce sont des jours de Chol. Donc, il y a un niveau maximum là où tu peux arriver. Avec ta tefila, avec l'accomplissement de tes mitzvot, etc. Shabbat, on monte encore plus haut. Maintenant, à quel moment de Shabbat on arrive au summum? Au moment de Mincha. Maintenant, pas seulement au moment où on peut prier Mincha, mais également au moment où toi-même tu pries Mincha. Donc, vu que tu es intéressé à atteindre ce summum le plus tôt possible, donc là, même d'après la Kabbalah, il y a un ridouche qu'il faudrait prier à Shabbat Mincha Gdola, et pas Mincha Ktana. Et donc, comme ça, tu fais ce moment où tu atteins des summums, ouais, des sommets plus longs. Si tu fais Mincha Ktana, alors tu vas rester en altitude de 6h30 jusqu'à Motsé Shabbat. Si tu fais Mincha Gdola, depuis 1h30 de l'après-midi, tu fais déjà du vol plané. Tu comprends? Alors tout ça, ça a un impact dans ton limoud, dans tes midot, etc., etc. Donc plus tu peux tirer ce temps-là et le faire grand, plus tu peux voler en altitude un long moment, mieux c'est. Qui dit ce chidouche-là? Le Rav, le Maharam d'Ilunzano, sur l'Aïdra. Oui, c'était un Kadmon, il a écrit un sefer qui s'appelle Omerman. Et là-bas, le Maharam d'Ilunzano, il dit qu'à Shabbat, il y a un lien de faire Mincha Gdola. Et Rabbi Yehuda Ptahiya le ramène, Et il dit, donc, de là, on apprend que l'altitude, entre guillemets, le fait qu'on atteint ses summums, c'est pas simplement, tu pourrais dire, bon, bah, maintenant, on est Shabbat, il est 1h30, je pourrais. C'est arrivé le moment de la tefillah de Mincha, on est dans les summums. Non, ça suffit pas. Il faut également que toi, tu pries Mincha pour arriver à ses summums. Donc, Shabbat, celui qui peut, il y a une yann d'essayer de faire Mincha Gdola. D'accord? Si ça s'accorde, ça serait bien de faire Mincha Gdola à Shabbat. Donc, on a fait le tour. C'est pas mal? Ok. Alors, revenons jusqu'à la prochaine parenthèse à ce qu'on voit ici. Donc, très bien, on a compris ça. Maintenant, le petit passage après. Velachen. Adam akore et Torah au shomea mipi akore tsare la sim lev lechon teva veteva vafilu toldot bene noar veshemot bene esa veshar maasiyot. Du fait que tout a un sens caché, alors l'homme ne peut rien négliger dans son accomplissement des mitzvot. Comme par exemple, il est à la synagogue, à Shabbat. Il entend la lecture de la Torah et on commence à énumérer tous les enfants qu'a eu Noah. Bon, tu pourrais dire, c'est un peu rébarbatif, quoi. Il les a eus, grand bien lui fasse, et puis bon, ça ne concerne pas trop. Non, dans chaque nom, on se cache des secrets particuliers et tu te dois les entendre. La même chose par rapport aux enfants de Esav.
Les
Rachaim. Oh, c'était des grands Rachaim, mais celui qui sait, on va pas dire l'essentiel, ça me fait peut-être un petit peu dire l'essentiel, mais facilement 80% de la Torah que le Harizal est venu révéler au monde, c'est en réalité quelques lignes dans la paracha de Vaishlar sur les enfants de Esav. Tous les aloufim voilà, qui sont dans la paracha de Eliphaz et ces trucs-là, voilà. La Torah du Harizal, 80%, c'est cette ligne. Ouais. C'est sept enfants jusqu'à arriver au 8e. T'imagines, tu pourrais dire, bon, on n'a rien à faire, c'est les enfants de Esav. Mais pourquoi la Torah a raconté ça? Franchement. C'était trop ennuyeux de raconter l'histoire juive, il fallait aussi raconter l'histoire de Esav. Comme le Zohar il dit, si la Torah était simplement pour ces histoires au sens simple, mais il y a des histoires de rois Visigoths, Lavdil et autres qui étaient bien plus palpitants et attrayants à entendre et à raconter que les histoires que la Torah nous raconte. Comme par exemple toutes ces énumérations de noms en veux-tu en voilà, bon, mais on n'en a rien à faire, entre guillemets. Tu comprends? Si tu les prends dans leur sens simple, est-ce que quelqu'un est intéressé par les noms des enfants de Esav?
Bon, en disant ces noms. On voyait aussi dans Rachid, là, c'était beaucoup de contes de Ariot.
Ah, c'est vrai, ouais, c'est vrai.
Tu vois, le niveau de.
C'est vrai, tu vois. De...
C'était en fait, par rapport. Non, sans Klipa, il n'y a pas de Kedusha.
Oui.
Tu vois, c'est pour ça qu'il y a un besoin. On peut dire que c'est un besoin, c'est comme par exemple l'orange. Sans la peau, c'est pas une orange.
C'est vrai.
C'est la peau, ça vient de la peau et le fruit en soi.
Ouais. Donc t'as raison. Mais encore une fois, c'est-à-dire, déjà de le voir de cette manière-là, c'est déjà s'interroger et voir les choses d'une manière plus interne. Mais si tu prends les choses de manière crue, pour le récit, pour la narration des noms des enfants d'Esav, tu vois aucun intérêt. Alors, chouf, demande à quelqu'un qui est que dans le chat pourquoi la Torah nous raconte le nom des enfants d'Esav. Ça va être un peu fat comme réponse, tu comprends. Ah, tu peux dire les harayot. C'est vrai les harayot et toutes ces choses-là, mais on a des parachutes shlemot sur les harayot. Et puis, qu'est-ce que tu attendais des goyim de toutes les manières? Tu attendais à ce que ce soit des gens qui soient gardés dans leur mœurs? Certainement pas. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours une explication, mais comme le Gaon de Vilna dit, ça reste un peu fade, entre guillemets. Ouais, ça reste un peu fade. Quand tu pénètres les sodotes de la Torah et la Kabbalah, tu vois comment tout prend une proportion vivante. Donc, il faut entendre à la Torah les noms des enfants de Esav, les noms des enfants de Noar, Veye, Bekavana, Tsuma, Oberetet, Vezea, Mamash, Keilu, Shomer, Aseret, Adiberot. Il faut leur accorder à cette narration des enfants de Esav ou des enfants de Noar la même attention que tu aurais accordée au Aseret, Adiberot, aux 10 commandements que tu seras en train d'entendre.
Entre parenthèses, pour
Yishevet Bethel. Ouais. Il se lève ou pas? Je ne crois pas qu'il se levait à Bethel. On pourra revérifier, mais je ne crois pas qu'il se levait. Vous, comment vous faites? Vous levez? Ouais.
Non, je...
non, moi je me lève pas. Mais Rabbi Meir Mazouz, il dit qu'il a trouvé dans le Shoot Arambam.
Il s'est levé avant, peut-être.
Il dit que le mieux, c'est de se lever depuis le début de la paracha. Ou le mien des Marocains, il se lève. Les Marocains, ils se lèvent.
C'est
le nez
des trucs du Nord.
Ouais, c'est ça. Donc, il faut écouter avec la même attention, parce que dans la Torah, rien n'est négligé. Hein?
Je suis pas marocain.
Non, c'est ça. Moi, je laissais faire de Baba Haki. Tu es tunisien. Il n'a pas le bon sidon.
C'est mieux que Ben Ariyahu.
Il n'a pas le bon sidon.
Ouais,
voilà.
C'est plus compliqué que
Ben Ariyahu.
Il y a moins
voilà,
par rapport.
C'est vrai. Donc, Kibechol, Shem, Yeshodotatsumim. Dans n'importe quel nom, même prénom, que la Torah dit et relate, il y a des Sodotatsumim, il y a des secrets extraordinaires cachés derrière ça. Veyesh bechon teva veteva elia, dans chaque mot et mot, or a Torah avec dusha atzuma, la lumière de la Torah a une sainteté incommensurable. Ou meorer basé, beolamot elionim akdoshim, shoresh ou pnimiyot aorot amelubashim beteva zo. Le fait même de réciter et de prononcer le mot, tu réveilles la racine de la spiritualité de ce mot dans les mondes supérieurs. Ou bechemze, ou beotiot, ou benekudot, ou beteami, mais la même chose par rapport à la ponctuation, par rapport à l'accentuation. Ayen dans le Sefer qui s'appelle Yesod Beshoresh Avoda, qui explique cela en détail. Maintenant, on a décrit que dans la Torah écrite, il y a plein de secrets qui sont à l'intérieur et que donc rien n'est à négliger. Maintenant, encore un plus grand chidouche, quelque chose d'incroyable, c'est que même tout ce que les Chachamim dans la Gemara ont dit, alors il va très certainement ramener ce Zohar-là, le Zohar dit « Kol mile de Rabbanan, be Mishnah ou be Talmuda, al razin de Horaïta yizdoum » Toutes les paroles des Chachamim dans la Mishnah ou dans la Gemara, ils ont en fait tout habillé avec un habit qui est, on va dire, facile à comprendre. Il y a une vache, il y a un taureau, il y a un locataire, il y a un masquir, il y a un litige entre deux personnes. Maseret Rosh Hashanah, est-ce qu'il faut sonner du chauffard, c'est Shabbat, c'est pas Shabbat, quel jour, etc. Donc tout a l'air compréhensible, mais en réalité tout ça ce n'est qu'un levouche, c'est qu'un habit. Eux, les Chachamim avaient derrière la tête des secrets qui étaient cachés derrière tout ça. Seulement, comme ils ne voulaient pas révéler au grand public les secrets, ils ont habillé tous ces secrets avec des histoires, on va dire, qui paraissent être communes. D'accord ? Mais en réalité, ce que les Chachamim avaient derrière la tête, c'était l'intériorité de tout ça. Donc, « Vegam haTorah sheba'al-peh » Même la Torah sheba'al-peh, « Ben haMishnayot » Que ce soit les Mishnayot, ou « Ben haGemara » Que ce soit la Gemara, écoutez bien, « Nitkenu » Tout ceci a été écrit et institué, « Lefi seder vesedot haTorah » Akmusim ba'em, d'après l'ordre des secrets de la Torah que les Chachamim connaissaient.
Comment
tu traduis Kamous? Enfoui. Caché. Ouais, Kamous c'est caché, ouais, enfoui. Kamous est katou bezor akadosh, comme c'est marqué dans le Zor akadosh par Rachat Pintras. Vechol itraskut alimut shel hatanaim ve'amoraim, écoutez bien, tout ce que les Chachamim de l'époque de la Mishnah ou de l'époque de la Gemara étudiaient, ayal derech asot be'olamot ha'elyonim. Ils étudiaient la Kabbalah. Ils étudiaient les secrets de la Torah qui étaient dans les olamot ha'elyonim. Valiede seder ayichud vitkashrut shel amidot vapartufim ha'elyonim hakdoshim vet kol hasodot ilbishu chazal betevot ubelashon shel pshat apashut vaniglé. Voilà exactement ce qu'on vient de dire. Et tous les secrets de la Torah, les Chachamim les ont enveloppés, les ont habillés dans la face simple et révélée de ce qu'ils ont expliqué dans la Gemara. Ayen encore une fois, beyesod veshoresh avoda, vayen lealan sharhe. Vechen kol hamitzvot. Yesod Beshoresh Avoda, si c'est pas ce qu'il a dit, Yesod Beshoresh Avoda ? Non. Yesod Beshoresh Avoda, c'est quelqu'un qui était, on va dire, il y a quelque chose comme 300 ans. Il habitait dans une ville qui s'appelait Orodonka, en Lituanie. C'était un grand chassid. Enfin, pas un chassid de la mouvance ratzidique, voilà, un chassid dans le sens. Oui. Voilà. Il a écrit deux sfarim, enfin deux volumes, hein, c'est pas deux sfarim, c'est le même sefer, qui s'appelle Yesod Beshoresh Avoda. C'est très, 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 très beau à lire. C'est écrit dans un langage hébreu très, très simple. Et ça te fait tout le programme depuis le début de la journée jusqu'à aller dormir, toutes les mitzvot que tu parcours, toutes les tifilotes que tu parcours, tout le Shmoneh Esrei que tu parcours, ça va aussi, ça passe par Kriyat Shema Lamita, Tikkun Chatzot, et tout expliqué, détaillé. Il ramène beaucoup, beaucoup de Harizal et de Kabbalah dans son. Mais pour les gens, pour le grand commun, si tu veux. Ouais, pour le... Mais il habille beaucoup ses paroles, il agrémente avec beaucoup de textes ésotériques et ça fait ses textes très très beaux. Il a lui-même un très très beau langage, il parle très joliment et dans un style très chaleureux comme ça. Il dit toujours mes chers frères et mes chers amis, comme ça, toujours à encourager, c'est très très beau. Et ça, c'est le premier volume. Et le deuxième volume, c'est la même chose, plein de moussard par rapport aux fêtes. Par rapport à Pessah, Sukkot, Shavuot, Sfirat HaOmer, Hanouka, Yesod, Veshoresh HaAvoda. Il s'appelle Rabbi Alexander Ziskind, mais Rodna. Très très beau sefer, et très connu. Très très connu comme sefer. Yesod Veshoresh HaAvoda. Et vous connaissez l'histoire de Avram ben Avram, qui était. Alors en fait, lui, le Yesod Veshoresh HaAvoda, il était à l'époque du Gaon de Vilna. D'accord ? Donc quoi ? Donc vous connaissez l'histoire de Avram ben Avram ?
Le père de.
Alors, qui était Avram ben Avram ? Alors,
Avram ben Avram.
Ok, c'est quoi l'histoire de Avram ben Avram ? Je vais vous la raconter en deux mots, parce que ça a trait au Yesod Veshoresh HaAvoda. Alors, le Rav, déjà, du Chafetz Chaim, s'appelait Rabbi Nachum Me'orodna, qui était lui-même, d'ailleurs, un grand Mekoubal. Ouais. Il y a l'histoire que le Chafetz Chaim a vu pendant la nuit le feu autour de son maître. Ouais, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là aussi. En tout cas, il habitait, ce Rabbi Nachum, dans la même ville que le Yesod Veshoresh HaAvoda. Maintenant, je ne crois pas qu'il l'a connu, hein, ce n'était pas la même époque. Mais il habitait la même ville. Et par exemple, Rabbi Nachum a raconté et a dit qu'ils avaient une tradition dans leur ville, que quand le Rav Yesod Veshoresh HaAvoda rentrait au Beta Knesset l'après-midi de Shabbat, juste avant Mincha, il était habillé avec ses beaux habits blancs et il avait une Megillah où il avait écrit Shir HaShirim dessus. Et il lisait Shir HaShirim dans sa Megillah, qu'il avait écrit donc sur un clave, sur un parchemin, Shir HaShirim. Et ils avaient une massorette, les gens de la ville de Horodna, que quand le Yesod Veshoresh HaAvoda rentrait au Beta Knesset la nuit de Shabbat avec sa Megillah, et lisait Shir HaShirim, les Malaché HaSharet s'arrêtaient de dire Shira pour venir l'observer, faire dire Shir HaShirim. Maintenant, quelle est l'histoire de Avraham ben Avraham? L'histoire de Avraham ben Avraham est l'histoire suivante. C'est une histoire importante, à savoir, le Hafetz Chaim racontait cette histoire à sa table toutes les années à Shavuot. Toutes les années à Shavuot, il racontait l'histoire de Avraham ben Avraham. On l'appelle le Ger Tzedek Akadosh. Quelle était l'histoire de Avraham ben Avraham? Il y avait un seigneur Goy qui s'appelait le Grav Pototsky, ouais, qui était seigneur dans les régions de Lituanie, et il avait un seul héritier. Le dit héritier a commencé à un certain âge à s'intéresser au judaïsme jusqu'à se convertir. Son père, qui était catholique très pratiquant, a été hors de lui. C'était une honte pour la famille, une honte pour l'église, etc. etc. Il lui a dit que ou il arrêtait tout de suite cette sérénade ou alors il le tuerait. Il n'a pas voulu écouter, il s'est enfui. Il s'est caché comme ça pendant un long moment et il étudiait. Il s'est converti complètement, il étudiait, il était caché chez les juifs, il était complètement caché, je ne sais même pas si ses frères juifs chez qui ils étaient recueillis savaient sa vraie identité, jusqu'à ce qu'un gentil goy l'ait vu là où il était, l'ait reconnu et l'ait dénoncé. Donc les autorités de son père l'ont arrêté, ils lui ont dit de renier la religion juive et la refuser, et ils lui ont dit alors on va te tuer, il a dit je suis prêt à mourir al Kiddush Hashem. Donc ils l'ont brûlé, vif. Et juste avant de le brûler vif, comme c'était de coutume, hein, malheureusement à l'époque, pour celui qui reniait la religion catholique, le Gaon de Vilna, avec des noms de Kabbalah, est apparu dans la cellule de ce Avraham ben Avraham. Et lui a dit, je peux te faire sortir. Il lui a dit, avec des noms de Kabbalah et tout, je peux te faire disparaître de l'endroit où tu es, comme je viens d'apparaître devant toi, et je peux te faire sortir et te faire enfuir. Comme ça, le Gaon de Vilna lui a dit. Et lui a dit, comment dire? Il lui a dit, je veux pas. Il lui a dit, je veux pas. Il dit, je veux mourir al Kiddush Hashem. Je veux mourir al Kiddush Hashem. Donc, le Gaon de Vilna est parti. Il est laissé dans sa cellule. Et effectivement, le lendemain matin, hein, il a été brûlé. Maintenant, vous savez que quand on meurt al Kiddush Hashem, il y a une bracha à faire. Il y a une bracha, puisque il y a une mitzvah de mourir al Kiddush Hashem. Donc, il y a une bracha. Asher kiddushenu mimizoteh betzivanu, lamut al Kiddush Shemo. D'accord? Donc, le Yesod Beshoresh Avoda voulait répondre amen à la bracha. Il était de l'époque, le Yesod Beshoresh Avoda, il voulait absolument répondre à la bracha. Maintenant, les juifs, au moment de cette sentence, cette exécution, s'étaient tous réfugiés chez eux à la maison et barricadés parce qu'ils redoutaient un grand pogrom. Après ça, les goyim allaient dire « Ah, c'est à cause de vous que le fils du Seigneur est mort, c'est vous qui l'avez embrigadé et tout. » Donc tous les juifs se cachaient, ils étaient complètement calfeutrés chez eux à la maison et craignaient un grand pogrom juste après. Donc le Yesod Beshoresh Avoda s'est déguisé, ouais, il s'est déguisé. Il s'est fait passer pour un goy, quoi, avec son déguisement. Et il s'est approché du bûcher. Il a répondu amen à la bracha. Ouais, il a répondu amen à la bracha. Et il a dit qu'il y a eu une tellement grande itorerut bashamayim de ce goy, ouais, qui s'est converti, qui a abandonné tous les plaisirs de ce monde, qui était le seul héritier de son père, et qui a été prêt jusqu'au dernier moment à mourir al Kiddush Hashem, que si le Yesod Veshoresh Avoda a dit il y avait eu 10 personnes, 10 juifs qui avaient répondu amen à sa bracha, il y aurait eu un tellement grand Kiddush Hashem qui se serait révélé dans le monde que le Mashiach serait arrivé tout de suite. Mais comme il n'y a pas eu ce Kiddush Hashem et qu'il n'y a eu que le Yesod Veshoresh Avoda qui était là-bas déguisé, qui a répondu amen, donc ça ne s'est pas fait. Et pour nous montrer la beauté et l'importance de la Torah, comment même un goy a réussi en fin de compte à discerner la chose et a été prêt jusqu'à mourir pour rester fidèle au peuple qu'il a finalement choisi de lui-même et qu'il a compris comme étant le vrai peuple d'Akadosh Baruch Hu, le Hafetz Chaim racontait tous les ans cette histoire-là à Shavuot à sa table.
Comment c'est ouais.
Pototsky, le Grav Pototsky, c'est genre le seigneur Pototsky, et il s'est converti, on l'appelait Avraham ben Avraham. Ouais, Avraham, fils d'Avraham, au nom de Avraham Avinu. Et alors, chose incroyable, c'est que ses cendres ont été récupérées, ouais, au Grav Pototsky, donc à Avraham ben Avraham, et ont été déposées dans le cimetière à Vilna, juste à côté du Gaon de Vilna. Vous vous rendez compte, le Sroud qu'il a, ouais. Il est enterré. Donc moi, j'étais à Vilna il y a quelques temps. Ouais, tu vois, il y a le mausolée du Gaon de Vilna. Tu as la stèle du Gaon de Vilna dans ce mausolée. Et juste à côté, ma mâche collée. Tu as ma mâche, la stèle d'Avraham ben Avraham avec les cendres. Hein?
C'est écrit
Avraham. Oui. À 100%. J'ai des photos, je pourrais vous montrer. Et juste à côté, comment dire, juste à côté. Donc quand on ira à Vilna, oui, on pensera à aller aussi là-bas. Très, très beau. Ma mâche, dans le même cimetière, il y a aussi Raphaël Moser, là-bas à Vilna. Et bon, voilà, ça c'est en...
Le Goalim, il ne sort pas d'Eretz-Israël, non?
Non, la vérité, il sort. Tu vois que maintenant, c'est plus comme c'était avant. Maintenant, bon, à part... Il sort. Tu vois qu'il va partout dans le monde pour ramasser de l'argent. Des fois, il sort même un mois entier ou des trucs comme ça. Maintenant, par exemple, pour Shovavim, ouais, c'est une période qu'il estime être tellement importante, Shovavim, ouais, que par exemple, il nous dit qu'il ne va pas ramasser de l'argent, ouais, en Chutz Laaretz, à l'époque de Shovavim, si c'est pour moins qu'un million de dollars. S'il pense pas pouvoir faire un million de dollars, il sort pas. À l'époque, des gens, tu comprends. Ça, c'est le niveau de... Mais tu vois, quand le Rav Kadouri sortait, Rabbi Nissim Peretz, il sortait. Alors, c'est vrai qu'on a l'histoire avec Rabbi Shaul Dwek HaKohen, que lui, jusqu'à la fin, il n'a pas voulu sortir. et qu'il est tombé aveugle à cause de ça. Il a eu un problème à ses yeux, Rabbi Shaul de Beka Cohen, et pour vous le resituer, il était, il y a même pas 100 ans, et lui-même venait de Aram Sova, comment on dit en français Aram Sova, de Syrie. Ouais, il venait de Syrie, d'Alep. Il est monté en Eretz Israël, il est un très grand Mekoubal. Il n'a pas voulu quitter Eretz Israël à aucun prix, jusqu'à ce que dans sa vieillesse, il a eu un problème aux yeux et qu'on lui a dit qu'il y avait un professeur spécialiste pour ce genre d'opération à Vienne, en Autriche, mais qu'il fallait voyager. Il a dit « Je préfère perdre la vue plutôt que de sortir d'Eretz Israël. » Et effectivement, il a perdu la vue. Ouais, effectivement, il a perdu la vue, il n'est pas sorti d'Israël. Bon, ça, c'est des...
comme c'est vrai qu'il y avait...
Ouais, c'est des hauts degrés, ouais, qui ne devaient pas sortir non plus des Israël.
C'est vrai qu'il
n'est
pas sorti des
Israël. Oui,
de vrai, donc.
Il est même à Vienne. Il était
à Vienne, il n'était pas là. À l'époque, il n'était pas là. Il veut dire là où il aurait été aveugle.
Lui, il veut dire par là qu'il y a vraiment sur ça en disant qu'il aurait dû sortir des Israël.
Qui aurait dû sortir?
Moi, je
n'ai
rien dit.
Il n'a
rien dit.
Il n'accuse pas. Il n'a rien dit.
Ça dépend.
Ouais, non, ça dépend, voilà. ça dépend des niveaux.
Bah non.
Ça dépend des niveaux. Ils étaient à un très haut niveau. Tu vois qu'aujourd'hui, même les grands rabbanim, ils sortent, même Rav Shteiman, ils sortaient, même Rav Ovadia, ils sortaient. Tu vois que même les très grands rabbanim.
Mais pas juste de sortir de
l'Israël. Non, ça dépend pourquoi tu sors, t'as raison. Si c'est pour faire du tourisme, c'est peut-être un petit problème. Si c'est pour aller voir tes parents, Rav Ovadia, il dit, mais Fourach, c'est Mouta. Même pour aller sur les tombes des Tzadikim, qui sont enterrés en route de la Haaretz, c'est aussi Mouta. Comme ça, Rav Ovadia, il dit, mais Fourach.
C'est une
raison
de sortir.
Ouais. Exactement. Donc, il faudra aussi qu'on prévoie un voyage de, comment dire, d'aller sur les Kibbutz Tzadikim de Chutz La'aretz, très important, très très important. Il faut savoir que le Gaon de Vilna a dit qu'après la destruction du Beit HaMikdash, l'essentiel de la Shrina, c'est sur les Gvarot des Tzadikim aujourd'hui. C'est l'essentiel de la Shrina. On voit que les grands Tzadikim, ils voyaient dans les pèlerinages sur les tombes des Tzadikim une grande avoda. C'était pas cette la villégiature pour eux.
Aujourd'hui, dans l'architecture haredi classique, il y a pas ce côté pèlerinage.
Ça dépend chez qui. Je veux dire, ça dépend chez qui. C'est dépend chez qui.
Ouais,
ils font. Ouais.
Chez les Taïm,
c'est plus light.
Tu vois, qui va au Oman.
C'est vrai que c'est plus light. Bon,
c'est un complément.
Ouais, voilà. Mais c'est vrai que chez les Sfaradim, c'est. Tu vois que le Ben Ishra, il est sorti spécialement de commandeur de Bagdad pour aller pèleriner. D'ailleurs, il est niftar dans un pèlerinage, le Ben Ishra. Il n'était pas à Bagdad quand il est décédé. Il était en pèlerinage. Donc voilà. Ouais, Vadaï. C'est très
aussi.
Ouais, c'est très chachouf. Si déjà on a parlé de ça, ça aussi, il faut savoir quand aller pèleriner. On peut pas aller quand on veut. Alors il faut aller au Veil de Rosh Chodesh ou le 15 du mois. On peut aller à ces deux moments-là. Sinon, si c'est pas le 15 du mois au Veil de Rosh Chodesh, l'âme n'est pas sur la tombe.
Ah, le 15 du mois aussi.
Ouais, ou le 15 du mois, c'est marqué, mais Fourral, on est du vrai Arizal. Ouais, donc ou le 15 du mois.
Tu déranges les Shamas ?
Tu déranges pas, c'est qu'elle est pas là. Tu te déranges pas. Donc voilà. Donc même les Mishnayot et même la Gemara sont en réalité basées sur les Sodot à Torah. Donc de là, on apprend quelque chose de très important. C'est que pas toujours, et ça le Ben Ishra, il le reprend, il le dit très souvent, c'est que pas toujours les Chachamim nous ont... On va dire encore une chose. Voilà, ça c'est très important ce qu'on vient de dire. Tu vois que même ce qui est marqué dans la Mishnah, même ce qui est marqué dans la Gemara, en réalité, les Chachamim avaient des raisons cachées pourquoi ils ont dit tout ce qu'ils ont dit et ils les ont enveloppés. Des fois, les choses nous paraissent encore une fois pire que fad. Ça nous paraît même incompréhensible. Alors regardez, prenons un exemple. Deoraïta, d'un point de vue toranique, si jamais le premier jour de Rosh Hashanah et Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? On sonne du chauffard. Mais les Chachamim ont eu peur. Ils ont dit, mais peut-être qu'un jour, un gars va se rendre chez son rav le jour de Shabbat et va porter son chauffard. Ah, tu te rends compte? On a annulé ce qu'il y a à Tchofa depuis le Zman de Chachamim de la Gemara à cause d'un cinglé qu'on n'a même pas encore trouvé. Comme je dis toujours, on a vécu en France. Ouais, on a vu c'est malheureusement des gens. Mais tu te rends compte, à cause d'une prévention. D'abord, il faut voir que le doute existe. Nous, on était en France. Ouais, on a eu affaire avec des gens qui étaient très loin de la Torah. T'as déjà vu un gars qui s'est trimballé à Rosh Hashanah avec son chauffard pour aller chez le Rav pour sonner du chauffard?
Et si pour la Brit Mila, on l'a permis?
Voilà, tu vois que pour la Brit Mila, on n'a pas eu peur que le Moal, un beau jour, il va oublier, il va transporter son couteau, même si ce n'est pas pour la Brit Mila. La même chose par rapport à Arbat Aminim. C'est une mitzvah de Horayeta, c'est le premier jour de Sukkot tombe, le premier jour de Yom Tov et Shabbat, de faire les Naranouim et d'emmener le Loulav à la synagogue. Mais on a aussi annulé. De peur, la même chose que quelqu'un va se déplacer pour.
Il y a un rave qui faisait.
Ah non, ça c'est interdit. À Shabbat?
Ouais.
Non, c'est un problème. Après que Rachamim, ils ont dit, c'est un problème. Mais tu vois que, comment dire, tu vois que ça te paraît très surprenant. Comment annuler pour des générations et des générations une mitzvah de la Torah? De faire l'oulav ou de faire tkiyat shofar, c'est pas une petite mitzvah, c'est une mitzvah de la Torah.
Et ça serait bien que c'est très important la mitzvah.
Et, ça serait... et surtout pour un risque. Oui, mais pour un risque qui. Mais il est où ce gars-là? Ouais, il est où? Je l'ai jamais rencontré, moi.
Le Ben Ishraï, il dit, on t'a raconté une histoire pour se faire avaler la pilule. Mais il y avait une autre raison, bien plus profonde, et bien plus vraie, bien plus véritable, pour laquelle, si Rosh Hashanah tombe Shabbat, on ne fait pas de Kiyat Shofar. Il y a une raison bien plus interne, bien plus réelle, bien plus compréhensible. Pourquoi, si jamais le premier jour de Yom Tov, de Sukkot et Shabbat, on ne fait pas les Naranouim du Lulav? Mais on ne te l'a pas révélé. Ouais, on ne t'a pas révélé. Pourquoi ? Parce que Chachamim dans la Gemara s'adressait au grand public. Ce n'est pas un livre de Kabbalah à la Gemara. Mais il fallait bien que des fois, ils disent aux gens, bah voilà pourquoi ils voulaient annuler. Alors eux connaissaient la raison interne, limite, de Sod. Pourquoi ils voulaient annuler ? Ils ne pouvaient pas la dire aux gens. Non, qu'ils leur ont raconté une histoire. Non, on a peur qu'il y ait un gars une fois qui va venir, qui va déplacer. Voilà. Ah, ça te paraît aberrant. Pour un gars qui n'a peut-être jamais existé et qui n'existera peut-être jamais, on a annulé une mitzvah d'assez de Oralita. Albiat Mashiach.
En plus, pour les enfants, c'est permis. En plus.
Le
prêtre, il peut sortir, aller.
Des choses incroyables. Des choses incroyables. Alors, le Ben Ishraï dit, c'est parce que tu connais pas la raison secrète. Les Chachamim, ils avaient une raison secrète qu'ils n'ont pas pu exposer. Et cette raison secrète, elle est fiable, elle est vraie, elle est très tangible. Mais comme ils ne pouvaient pas la révéler, ils ont raconté une autre histoire. Et des fois, tu vois que ça colle pas à 100%. Maintenant, ça va dans les deux sens. Ça va dans un sens que des fois, les Chachamim, ils font un décret. Ouais, tu pourrais dire, oh, mais ça, c'était bien à leur époque et tout, nous, au 21e siècle, on est bien loin de tout ça, etc., etc. Tu pourrais dire, par exemple, le lait pachamour. Ouais, boire du. Mais aujourd'hui, monsieur, il y a des lois, et c'est tout, tout est régi aujourd'hui, et puis c'est très dangereux de mélanger un lait qui n'est pas un lait de vache. Et si l'éleveur, il est attrapé, on lui donnera une contravention. Et qui s'amuserait à faire une chose pareille, de mélanger du lait de chamelle? Est-ce que vous voyez une chamelle dans toute notre étable ici, monsieur, ou une truie, ou quoi que ce soit? Pourrait dire, bon, peut-être qu'à l'époque, Rachamim, les paysans, ils vivaient avec toutes sortes de bêtes autour de eux. Donc, le risque était vraiment tangible qu'à côté d'une vache, il y ait une truie. Il y a peut-être un âne, est-ce que je sais une ânesse, quelque chose. Aujourd'hui, dans les fermes suisses, là où vient le chocolat au lait, tu crois vraiment qu'il va y avoir une truie ou... Mais les Chachamim, ils t'ont raconté ce qu'ils ont voulu te raconter. Ils avaient une raison interne pour laquelle ils ne voulaient pas que tu manges du lait qui ne soit pas chamour. Ouais. Ils t'ont raconté de peur qu'une fois, ça vient un mélange de quelque chose comme ci, comme ça. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, la chose ne se vérifie pas devant toi que tu peux te dire, bon, alors on peut manger un lait qui n'est pas surveillé. Chachamim, ils voulaient qu'il y ait un Ben Israël qui surveille le lait depuis le début. Il y a une raison interne à ça. Et ils ont fait passer ça sous le fait de, il y a un risque qu'on mélange un autre lait. Maintenant, le Ben Ishraï dit, c'est pas parce que la raison aujourd'hui ne se vérifie pas. Il faut que je le retrouve. Je pourrais vous le retrouver,
Ben Ishraï. Il donne le sens de Mitzvot, en fait.
Oui. Ah, Ben Ishraï, c'est quoi? Ah, Ben Ishraï, c'est Rabbi Yosef Haïm Bagdad qui l'a écrit. Ah. Alors, qu'est-ce que vous demandez? Ah, où est-ce qu'il dit ça? Dans la Halakhot, dans la Halakhot, il dit ça. Il explique très souvent comme ça. Donc, bien que la raison, des fois, n'a plus lieu, les Chachamim, tu ne peux pas passer outre leur décret. Parce que ne crois pas qu'ils t'ont tout révélé quand ils t'ont dit la chose. Ils t'ont même pas révélé la moitié de l'iceberg qui se cachait en réalité. Ils t'ont fait croire qu'il y avait une raison. Et des fois, tu vois que ça bloque. Ouais. Ah, mais c'est la raison, elle ne se vérifie plus aujourd'hui au 21e siècle. Alors, tu serais tenté à dire, bon, bah, alors on annule le décret. Puisque toute la raison n'existe plus aujourd'hui. Non. La raison, ils te l'ont révélée, entre guillemets, révélée.
Le poisson et le
ouais, toutes ces choses-là, il y a une multitude de choses.
C'est une erreur
Il y en a qui disent que c'est une erreur. Le Ben Ishraï, d'ailleurs, là-bas, il ramène qu'il a parlé avec des médecins qui disent que Bémet, c'est dangereux de manger les deux ensemble. Qui dit que Bémet, c'est dangereux de manger les deux ensemble. Bon, ça a déjà à faire avec des minagim après. Est-ce que oui ou est-ce que non? Mais tu vois que, comment dire.
Tu peux donner une réponse à quoi ou non?
Deux, par rapport à quoi?
Les deux.
Au chauffard.
Au chauffard. Toutes ces choses-là, c'est un petit peu long, la vérité. Il faudrait passer par d'autres choses. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, il faut savoir que. Quand on fait la Gemara, vous savez que les Chachamim eux-mêmes sont d'Orchim le Passou qui nous dit Bemahashakim Oshivani. Tu m'as assis dans les ténèbres. Bemahashakim, dans les ténèbres. Oshivani, tu m'as fait asseoir. Les Chachamim eux-mêmes disent, de quoi parle le verset dans le sens drush, pas dans le sens pshat. Le verset parle de celui qui étudie le chasse Bavli, le chasse de Babylone. Il est comme quelqu'un qui est assis dans les ténèbres. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? C'est décevant. Tu lui dis, un type, il consacre sa vie à la Torah. Ouais. Il a renoncé à tout, tu comprends? Il a renoncé à la high-tech, il a renoncé à sa boîte, il n'est plus chef d'entreprise, il est à vélo au lieu d'être à Mercedes et tout. Il n'a plus rien, le gars. Ouais. Et il fait la Gemara à fond, tu vois. Tu lui dis, bon, mais t'es dans les ténèbres, hein, mon gars. Il dit, ah, quand même, un minimum. C'est sûr. C'est sûr que c'est relatif, mais en tout cas, c'est sûr que, au contraire, la Torah est pleine de lumière. Voilà, exactement. C'est sûr que la Torah est pleine de lumière. mais comparé à la vraie lumière, on va dire entre guillemets, qui est la lumière de l'étude de la Kabbalah, quand tu te trouves dans l'étude de la Gemara, tu es comme dans l'obscurité. Tu ne comprends pas à 100% les tenants et les aboutissants des choses. Oui, tu ne vois pas exactement où les choses aboutissent, etc. etc. Donc les Chachamim eux-mêmes étaient au courant de ça. Et ils ont dit, mais Mahashaki Moshivani, Zo Talmud Bavli. Je veux dire encore plus que ça. Hein, encore plus que ça. La Gemara dit, Miyom Shenehara Bet Amigdash, depuis le jour où le Bet Amigdash a été détruit, Elo la Kadosh Baruch Hu Beolamo, Kadosh Baruch Hu n'a plus dans son monde, et la Arba Amot Shel Halacha. Il n'a plus que les quatre coudées, les quatre coins de l'Halacha. Donc tu dis, ouais, c'est super, il nous reste ça. Il nous reste le Bet Amidrash, on a l'Halacha. Donc tu te dis, heureusement, c'est l'autre consolation, mais c'est un bon lot de consolation. Mais en réalité, le sens vrai de cette parole des Chachamim est interprété exactement de l'autre côté. À l'époque où il y avait le Bet Amigdash, il y avait une telle révélation divine, quotidienne, qu'on pouvait pénétrer les phases les plus internes et cachées de la Torah. Tout le monde étudie la Kabbalah, tu comprends ? Même les jeunes, si tu veux, étudient la Kabbalah. Depuis qu'il y a eu le Chorban Bet Amigdash et qu'il y a eu ce manque de discernement de la proximité du Ham Israël avec Akadosh Baruch Hu, tout ce qui nous reste, c'est quoi ? C'est la Halakha. La Halakha, tu ne vois plus de proximité avec Akadosh Baruch Hu, c'est très sec, très très sec. Très sec, la Halakha, en réalité. Qu'est-ce qu'elle te dit ? Conduis-toi comme ça, conduis-toi comme ça. Si tu as fait ça, alors ça. Sec. Ce qui n'était pas le cas avant le Chorban Bet Amigdash. Avant le Chorban Bet Amigdash, on étudiait plus la pnimiyut de la Torah, la Kabbalah. Et dans la pnimiyut de la Torah, tu voyais la proximité du juif avec Akadosh Baruch Hu. C'était beaucoup moins sec, si tu veux. Donc c'est aussi la raison pour laquelle tous les gens, en général, pratiquants, je me précise, dans le monde sfarad, arrivé à un certain âge, s'intéressent au limud de la Kabbalah. Si c'est pas le limud de la Kabbalah, alors ça passe par quelque chose d'autre ou un peu tracidout. Il faut quelque chose d'un peu d'exotisme, si tu veux. Ouais, parce que les gens, ils sentent au bout d'un moment, arrivé à un certain âge, que...
C'est pas fade, mais ça devient...
Il y a quelque chose qui manque. Des fois, eux-mêmes, ils savent pas te dire quoi, mais ils sentent que ça s'arrête pas là, si tu veux. Ça s'arrête pas là. Il y a encore quelque chose d'autre par derrière. Donc c'est pour ça que tu vois que chacun, au bout d'un certain âge, s'intéresse à essayer de pénétrer un peu plus en profondeur certains textes. Alors... maintenant, qu'est-ce qu'on a vu ? Ouais, donc même toutes les mitzvot, elles sont en réalité régies par les secrets cachés de la Torah. D'accord. Quand quelqu'un il fait bien une mitzvah, quand quelqu'un fait une mitzvah bien comme il faut, avec tout ce que la mitzvah demande comme condition pour être accomplie, il est metaken dans les olamot rochaniim des tikkunim niflaim venoraim le en ketz vetachlit. Plus il fait bien la mitzvah, plus il est metaken dans ses mondes spirituels, ce qu'il faut être metaken, plus il aura une grande récompense. Mais si il dénigre un peu l'accomplissement des mitzvot, que ce soit des mitzvot de la Torah ou des Rabbanan, il entraîne des bgamim. Comment dire en français des bgamim? Des blessures, si tu veux.
Ouais,
des blessures, des dommages. Oh, des dommages. Très, très bien. Des dommages dans les mondes spirituels. Ve'az, et de ce fait, vu qu'il a engendré des dommages, Oncho Gamken, Kefi Bgamo, il aura des, comment dire, il aura sa punition en fonction des Bgamim qu'il a fait, des dommages qu'il a engendrés là-bas.
Des défauts.
Ouais, des défauts, des dommages. Alors, venez, on fait encore ce morceau-là. Belachen, Zemechayev, Otanou, les Dagdek, Yoter. בלימוד התורה שבכתב ושבעל פה ובקיום המצוות דאורייתא ודרבנן גם בלי כוונות האריזל. Donc, de ce fait, vu qu'on comprend maintenant que toutes les mitzvot, que toute la Torah, que ce soit la Torah écrite ou la Torah orale de la Gemara ou de la Mishnah, tout a été fait en fonction des secrets de la Torah, ça nous demande à nous, les Bnei Israël, de faire encore plus attention à notre accomplissement de la Torah, des mitzvot et à notre étude. וכל שכן כשאדם נכנס לפני ולפנים, encore à plus forte raison, comme l'homme rentre d'une manière plus pnimite dans l'étude de la Torah, c'est-à-dire se verse dans la Kabbalah, ou matril leavin et sodot haTorah chez Birta et chez Be'alpe be'mitzvot, et qui commence à comprendre les secrets qui sont cachés dans les paroles des Chachamim de la Torah et des mitzvot. Chez Osé tikkunim gedolim meod be'olamot ha'elyonim ve'scharo le'en aror. Celui qui s'intéressera donc à la Kabbalah et qui accomplira ses tefillot et ses mitzvot d'après ce que le Harizal et le Zohar nous enseignent, alors il aura une récompense, les en aror, qui est incommensurable. Voilà. Ça va être là ? Comme vous voulez. Ça va ? Très bien.
Tu voulais continuer, toi ? Un petit peu ? Ouais, je sais pas, mais c'est après. Tu vas partir, toi, midi. Enfin, il fait une heure et quart, ça va. Très bien.
C'est quand tu prends. J'ai vu, moi, quand j'étais invité, j'ai fait une chapatote, etc.
Ouais.
Mais il y a un mec en train de couper l'extrémité du pain.
Oui.
Il dit que c'est pour donner, comme ça, on verra, il parle oui. De dire.
Nahon.
De donner que. Ah. Comme pour la faute de Yop.
Ouais, alors ça pourrait être joli, mais c'est pas marqué. Ouais, ça pourrait être joli, mais c'est pas marqué. Ce qui est marqué, mais ça n'est pas non plus marqué, c'est qu'il paraîtrait-il que le bout du.